Eh bien, bienvenue à tous sur le cours de F6KGL, et ce soir nous voyons un chapitre entier consacré aux synoptiques. Ce chapitre, alors il y a pas mal de questions dessus à l'examen. Alors premièrement, ce ne sont que les synoptiques qui sont au programme de l'examen. En théorie, vous n'avez pas de schéma complet, je dirais. C'est-à-dire ce que l'on peut appeler un schéma électrique. Là, ce ne sont que des schémas de principe, c'est-à-dire on va vous demander comment, quels sont les différents le nom des différents étages et comment ils s'articulent, comment ils s'imbriquent les uns dans les autres. D'accord ? Alors attention quand même, parce que les schémas qui vont être présentés, tout au moins les synoptiques qui vont être présentés, souvent ce sont des synoptiques ou des schémas partiels, donc on vous montre qu'une partie d'un émetteur, d'un récepteur, et donc il va falloir vous trouver, si on vous présente 3-4 éléments, il va falloir vous trouver comment s'appelle l'élément qu'on va trouver entre, par exemple, une fréquence intermédiaire et un mélangeur. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est souvent pas l'ensemble d'un schéma complet qu'on va vous présenter. Quelquefois aussi, c'est l'imbrication, c'est-à-dire la manière dont est présenté le schéma, où généralement, quand on va voir le cours, on va voir ça se lie normalement de la gauche vers la droite. Hein. Mais voilà, quelquefois à l'examen, on vous fait le coup de vous présenter les éléments plutôt de la gauche vers la droite. Hein. De la droite vers la gauche, un petit peu à une lecture comme en arabe. Ou de bas en haut, comme en japonais. Enfin voilà. Ces synoptiques, alors déjà les synoptiques, ça se dit bloc diagramme en anglais, au cas où vous cherchiez des informations, voilà, bloc diagramme c'est le nom anglais, et en aucun cas ce sont des schémas électriques, donc vous n'allez pas retrouver dedans des transistors, des résistances, voilà. Ou si vous trouvez ce genre de composants, c'est vraiment pour montrer comment peut-être sont liés des étages. C'est-à-dire que par exemple, entre deux étages, on peut mettre un potentiomètre, notamment à l'entrée de l'étage audio, on met un potentiomètre pour dire bah, c'est là où je règle le volume de mon haut-parleur. Voilà. Donc on va voir tout ça, hein, vous inquiétez pas. Puis souvent, bah d'ailleurs, les liaisons entre les étages, elles ne sont pas indiquées. Donc on ne sait pas trop comment sont liés les étages, si c'est un condensateur, si c'est un transfo. Généralement, quand c'est un transfo, on préfère le préciser. Et voilà, c'est pas toujours évident. Donc tout ça, bah voilà, c'est plus un schéma de principe pour essayer de comprendre l'architecture de votre émetteur ou de votre récepteur. Encore une fois, les différents étages tels qu'ils ont été étudiés, il faut revenir en arrière quand on a vu le paragraphe 7.2 sur tous les étages spécifiques radiofréquences. Et puis le 7.1 qui était donc la première partie du chapitre 7 qui était consacrée aux amplificateurs HF. Voilà. Et tout ce qui est démodulation et modulation, donc tout ce qui est lié à la modulation en elle-même, on verra ça la semaine prochaine dans la dernière partie du cours. Donc ça c'est une partie un petit peu, alors soit qui reprend des éléments déjà vus, ou pour certains points on les verra plus en détail, mais en fait c'est toute la partie modulation ou démodulation, que pour le moment, on ne va pas en parler ce soir. Tout au moins, on va appeler ça démodulateur ou modulateur, sans en parler plus. et on verra cette partie bien spéciale qui va dépendre en fait, qui va dépendre de la modulation évidemment. Et donc les modulations et les types de démodulation ou de modulateurs, ceux-là, tous ces trucs, toutes ces choses-là, on les verra la semaine prochaine. Quelques infos encore dans les schémas. En règle générale, dans toutes les représentations ANFR, un étage s'est représenté par un rectangle. Et donc ce schéma, ça c'est typiquement une représentation ANFR, c'est-à-dire que c'est un rectangle et à l'intérieur on marque ce que c'est. Alors on le marque plus ou moins bien, hein, on le marque plus ou moins bien, c'est-à-dire que souvent ce sont des abréviations. Parce qu'évidemment, si vous commencez à mettre amplificateur radiofréquence, le rectangle n'est pas suffisamment grand. Et donc, la NFR a plutôt tendance à écrire RF pour dire c'est un amplificateur radiofréquence. L'amplificateur radiofréquence, il amplifie quoi ? Il amplifie de la haute fréquence. Hein ? Et c'est pour ça que j'ai écrit ici HF. Hein ? Donc, une représentation, ici une deuxième représentation, donc avec un rectangle vide à l'intérieur, et au-dessus ou en dessous, ou à côté, enfin bon, pas trop loin en tout cas, il est écrit à quoi sert cet étage. Donc ça, c'est la représentation plutôt ANFR, qui est aussi le cas général. Mais on trouve aussi des représentations un peu plus intelligentes, notamment comme celle-ci. Ici, ça c'est un triangle. On l'a déjà vu un petit peu ça quand on a vu les amplificateurs. Et donc les amplificateurs, on les représente comme ça pour bien montrer où se trouve l'entrée et la sortie. Là, dans mon rectangle, je ne sais pas où est l'entrée, où est la sortie, et donc je ne sais pas dans quel sens ça se lit. Mais par contre, en schéma électrique, il y a toujours une entrée et une sortie. Ça ne peut pas marcher dans les deux sens. Un transistor, vous ne pouvez le brancher que dans un sens. Et si vous mettez le courant d'entrée de commande sur la sortie, ça va quand même beaucoup moins bien marcher. Donc ici, vous avez un amplificateur donc sous forme de triangle. Donc par exemple, ici, un amplificateur AF, donc audio fréquence, va amplifier de la BF, de la basse fréquence. D'accord ? Et aussi, ce genre d'amplificateur, en fait, c'est un amplificateur qui a aussi un filtre. Alors, peut-être pas amplificateur, d'ailleurs, on ne sait pas, mais normalement, si c'est un filtre passe-bas par nature, c'est quelque chose qui est symétrique, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher d'un côté comme de l'autre, il aura la même fonction. Hein, c'est un filtre passif. Donc, tout cet élément passif, on peut les brancher soit dans un sens, soit dans un autre, et ça va fonctionner de la même manière. Dès qu'il y a un composant actif à l'intérieur, comme par exemple un transistor, dans ce cas-là, il ne peut y avoir qu'un sens pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc on va supposer que là, il y a un amplificateur suivi d'un filtre passe-bas. Pourquoi passe-bas ? Parce qu'ici, on a représenté, plus ou moins artistiquement, un filtre passe-bas, hein, puisque par rapport à une fréquence ici de coupure, toutes les fréquences supérieures, elles sont réduites, atténuées. Donc voilà. Et le filtre passe-haut, la courbe, là, elle serait du coup dans l'autre sens. Voilà, et puis donc ça c'est pour les fonctions amplification, Et puis après, on a des fonctions un peu spécifiques, dont par exemple les oscillateurs. Donc un oscillateur, par définition, il n'y a qu'une sortie. Hein, ou alors, s'il y a une entrée, c'est une entrée de commande pour commander la fréquence. Voilà. Donc ici, c'est un oscillateur. La sortie, je n'ai qu'une seule sortie. Voilà, et l'oscillateur, c'est un cercle, pour bien montrer que c'est un oscillateur. Voilà. Et quand c'est un mélangeur, c'est aussi un cercle, mais là, vous avez une sorte de croix. Alors, la croix, soit c'est pour vous dire, eh bien, j'ai deux parts ici de mon fromage, et puis ça sort ici sur celle-ci, ou alors c'est la croix de la multiplication, puisque je multiplie des tensions. Hein, c'est la multiplication des tensions qui fait qu'en sortie, j'ai l'addition et la soustraction des fréquences. Hein, rappelez-vous de ce que l'on a vu dans au chapitre, deuxième partie du chapitre 7. Voilà. Donc, et sur mon mélangeur, là, du coup, j'ai deux entrées. Ici, j'ai mis des flèches pour montrer les entrées. Ici, il n'y a pas de flèche, mais du coup, c'est la sortie. Mais à l'examen, vous allez avoir un rectangle comme ça, sans flèche, et donc c'est à vous, enfin déjà quand vous voyez qu'il y a trois choses qui arrivent dessus, voilà, il y a très grande chance quand même que ce soit un mélangeur. Voilà, et donc du coup, on en déduit que c'est le type de d'étage, voilà. Et encore une fois, dans les questions d'examen, c'est essentiellement représenté sous forme de rectangle et très peu, quasiment jamais sous forme de triangle pour les amplificateurs, quelquefois ici des cercles quand on parle des mélangeurs ou des oscillateurs, mais voilà, souvent la règle générale, c'est plutôt le rectangle. Donc on va voir, après ce préambule sur toutes les représentations que l'on va voir, on va voir donc le premier type de récepteur, qui est le récepteur le plus simple qui puisse exister. C'est un récepteur sans conversion qu'on appelle à amplification directe. Alors, je vais prendre mon schéma ici, là, et je vais le faire à la webcam pour vous expliquer chacun des petits éléments. Alors déjà, alors la webcam qui a bougé entre temps, évidemment. Donc j'ai mon antenne qui est ici, l'antenne qui est toujours représentée comme ça. Par définition, comme je suis dans un récepteur, ça va se lire plutôt, puisque j'ai foutu de mes stylos, moi. Et voilà. Ça va plutôt aller ici, dans ce sens-là. Enfin, le sens de lecture, c'est toujours le sens de lecture normal, donc toujours de la gauche vers la droite, hein, que ce soit pour les émetteurs ou pour les récepteurs. Ça, alors évidemment, dans les questions d'examen, histoire de vous perturber, ils vous le mettent des fois dans l'autre sens. Mais moi, ce que je vais vous montrer ce soir, le truc plus classique, c'est dans ce sens-là. Alors, je vous rassure quand même, à l'examen, il y a, 20% seulement des questions où le synoptique n'est pas aussi évident que ça. Voilà, donc on va se calmer aussi. Hein. Et puis après, eh bien, j'ai une chaîne d'amplification, donc un RF1, et un RF2. Donc là, c'est des amplificateurs. Donc là, j'ai une fréquence, par exemple, 10 mégas. Et ce 10 MHz, je vais prendre un peu de hauteur pour le voir bien. Hop, voilà. Et ce 10 MHz, eh bien, je vais le retrouver ici dans ma chaîne d'amplification. Je vais avoir un circuit oscillant dans mon RF1 qui va bouclé sur 10 mégas pour que l'amplification, ça amplifie uniquement le 10 mégas. Et évidemment, pas le 14 mégas, pas le 8 mégas, Voilà, uniquement la fréquence que je veux recevoir. Et donc ici 10 mégas. Et ici aussi 10 MHz. Ensuite, j'arrive ici sur un système que je vais appeler, j'aurais dû commencer par ça, sur un système ici que je vais appeler démodulation. Alors j'écris très mal. Donc c'est DEM. Je vais l'écrire au-dessus, ça sera plus simple. Démodulation. Donc je vais l'appeler DEM parce que comme j'écris gros, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Démodulation. Donc cette histoire de démodulation, on le verra la semaine prochaine. Et à la suite de quoi, ici je mets un potentiomètre avec ici un amplificateur audio. Et à la suite, ici, un haut-parleur. Voilà. Ça, c'est mon circuit de base. Donc, mon potentiomètre, là, c'est tout simplement, ça va me permettre d'adapter le niveau audio, ici, à la puissance de mon signal que je reçois sur l'antenne. Parce que si je reçois un tout petit signal, ben, je ne vais pas avoir grand-chose qui arrive sur le haut-parleur. OK ? Par contre, si mon signal il est très fort, et ben là, je vais avoir les oreilles cassées. Et donc, ici, par confort, je dirais, je vais mettre ici un potentiomètre qui va me permettre de régler la puissance d'amplification de mon étage audio. Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. C'est pas très compliqué. Ce qui veut dire que mon système, ici, je suis ici en HF, donc j'amplifie ici du 10 mégas, et après mon démodulateur, ici, je suis en BF. Donc j'ai extrait la modulation de mon signal HF. J'ai encore écrit comme un cochon. Essayer de faire ça propre quand même, pour que vous arriviez à suivre. Donc ici, j'ai 10 MHz. Et mon démodulateur, c'est ce qui me fait la transformation de mon signal HF en signal BF. Et évidemment, le modulateur, bah, ça va faire exactement l'inverse. Donc ici HF et ici BF. Je vois que sur la vidéo, le haut n'est pas pris. Voilà, on y arrive. Donc on arrive à voir quelque chose d'à peu près propre. Donc voilà comment fonctionne un récepteur simple qu'on appelle sans conversion. Ce qu'on appelle aussi à amplification directe. Alors, que se passe-t-il si je veux recevoir, parce que là, je ne reçois que le, c'est pas la bande 10 mégas que je reçois, c'est le 10 mégas tout court. Si je veux recevoir le 10 mégas 0,30, et ben dans ce cas-là, il faut que je m'amuse à tout décaler mes amplificateurs, là. Les deux amplificateurs. Alors, ici, j'en ai que deux. Donc, on va supposer que faire varier ensemble les fréquences d'accord de ces deux amplis, ça reste faisable. Tout simplement, ce que l'on va faire, on va utiliser les deux mêmes circuits avec un condensateur variable à double cage de même valeur. Et si bien que quand on fait varier le condensateur variable, on fait varier les deux cages, du coup, puisqu'elles sont reliées, donc ça va changer la valeur de la même. Ça va changer la même valeur. Et donc, les deux cages de mon condensateur vont bouger en même temps et faire varier ici la fréquence d'amplification. Donc, du coup, ça marche pas trop mal. problème, c'est que si j'ai plus de deux amplificateurs, ça va commencer à se compliquer. Alors si j'en ai trois, si j'en ai quatre, là n'en parlons pas. Donc il va falloir que sur mes deux amplificateurs, là, j'ai une chaîne d'amplification assez balèze, parce que sur mon antenne, ici, j'ai que des microvolts. Hein. Et pour que mon haut-parleur derrière commence un peu à bouger et que j'entende quelque chose, il faut ici quelques... Alors peut-être pas des millivolts, c'est peut-être pas encore suffisant, mais quelques dizaines, quelques centaines de millivolts. Et donc ça veut dire que j'ai une belle chaîne d'amplification à prévoir. Alors soit ici, donc avant l'amplificateur audio, donc en HF, ou ce qui va me manquer en HF, il faudra que je le fasse ici en amplificateur audio, en AF. Et donc, Et en tout cas, l'ensemble, là, on doit avoir un certain coefficient multiplicateur de tension. Hein, puisque, je rappelle, ici, on est aux alentours du microvolt, voire moins, sur l'antenne, alors qu'on doit avoir la dizaine ou la centaine de millivolts, au moins, au niveau du haut-parleur, pour que ça puisse fonctionner et qu'on entende quelque chose. Voilà, donc il y a un rapport, grosso modo, en termes de tension, au moins de 1 à 100 000. Donc ça nécessite quand même pas mal d'amplification. Et donc souvent, ici, 3 amplificateurs ne sont pas suffisants. Hein, je rappelle, le gain en tension d'un transistor, c'est 50, quoi. Donc 50 fois 50, si on en a 2, ça fait 2500, hein, ça ne fait pas les 100 000 dont on parlait tout à l'heure. Donc il en manque encore un petit peu. donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est mon premier récepteur. Le récepteur le plus classique, je reviens sur mon PDF. Et puis, on s'est très vite aperçu que c'est quelque chose qui n'est absolument pas pratique. Pas pratique pour deux choses. Et d'un, c'est que comme on fait varier la fréquence, en fait, on ne peut faire varier que pour une bande assez étroite, pour que ça reste fonctionnable sur une bande assez étroite. Mais dès qu'on veut ouvrir la bande et avoir un spectre plus large à explorer, eh bien, notre système ne va plus marcher. Et donc, mais ça, c'est il y a très longtemps, c'est tout au début de la radio, où on s'est trouvé coincé avec ce système-là. Donc, tout de suite, on a trouvé la solution en passant par qu'on appelle une fréquence intermédiaire. Et ça s'est fait finalement dès la fin de la Première Guerre mondiale. Donc 1918, on a un certain Lucien Lévy, français, qui dépose un brevet, le brevet du montage qu'il a appelé super hétérodyne. Hein. Et donc ce montage-là, c'est le montage qui a été utilisé par les premières TSF, je rappelle quand même une date importante, 21 juin 1921, donc il y a 100 ans, c'est la première émission radiophonique en France. Alors, précisément, ces radios-là qu'il avait faites, pourquoi ? C'est que Radiola était un constructeur d'appareils de mesure qui s'est lancé dans des récepteurs radio, donc, et pour vendre ces récepteurs radio, eh bien, il a fait une démonstration le 21 juin 1921. Il y avait un émetteur à à Levallois, je crois, c'était dans ce coin-là où était l'usine Radiola, et il avait fait venir des clients potentiels à Paris, rue Blanche, et il leur a fait écouter un concert. Et donc ça, c'est la première émission radiophonique, donc le 21 juin 1921, il y a 100 ans. Et juste après, on a les émissions de la Tour Eiffel qui ont commencé au mois d'octobre et qui ont commencé réellement des programmes plus réguliers à partir de janvier 1922. Donc voilà, donc Lucien Lévy faisait partie de cette équipe qui a développé ce produit de radio pour les postes de TSF. Voilà. Et donc, ces fréquences, il utilise le système de fréquences intermédiaires. Comment fonctionne la fréquence intermédiaire ? Eh bien, je vais faire en sorte de ramener la fréquence que je veux amplifier sur une seule fréquence, que je vais appeler la fréquence intermédiaire, et comme cette fréquence intermédiaire, elle ne va pas changer de fréquence, elle va toujours être la même, eh bien, je vais pouvoir mettre une chaîne d'amplification beaucoup plus facilement qu'avec mon récepteur à conversion directe. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser un oscillateur, un mélangeur. Alors, je reviens. Donc ça, c'est, je vous ai mis le slide pour vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir avec le PDF au tableau blanc comment ça fonctionne. Hop, zoop. Revoilà donc mon schéma. Ce que je vais faire là, je garde mon premier étage amplificateur. Je retire celui-là. Voilà. Je garde évidemment mon système de démodulation, moi ça me va bien, il est toujours valable. Mais ici je vais rajouter, je vais faire ça en bleu, en vert ici. Ça c'est ce qu'a rajouté Lucien Lévy, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, elle est constituée de quoi ? Elle est constituée d'un mélangeur, alors que je vais ici faire à la manière un NFR, un mélangeur, un oscillateur, et ici, une FI. Alors, quand on dit une FI, en fait, je peux, dans cette brique, dans cet étage, mettre à l'intérieur plusieurs amplificateurs les uns derrière les autres. Et c'est là que je vais pouvoir amplifier autant que je veux. Comment ça va fonctionner ? J'ai donc mon 10 mégas. Ici, j'ai une fréquence intermédiaire. Je vous dis n'importe quoi, je vais la faire sur 4 mégas. Et donc, mon démodulateur, il démodulera du 4 mégas, et il enverra ça en BF. Donc là, ici, c'est plus 10 mégas, ici, c'est 4. Mais je m'en fous. Mon démodulateur, il va savoir faire. Comment je fais pour passer de 10 mégas à 4 mégas ? Eh bien ici, j'ai un mélangeur et un oscillateur, et j'ai deux solutions. Soit je dis, je fais descendre, donc je fais un oscillateur ici qui ferait 6 mégas, et donc ça me fait 10 moins 6, ça me fait 4 mégas. La deuxième fréquence, le deuxième mélange, ça va me faire donc 10 plus 6, ça me fait 16 mégas. Mais ce 16 mégas, il va arriver sur ma fréquence intermédiaire, où il va y avoir à l'intérieur des filtres 4 mégas, et donc mon 16 mégas, il va être éjecté, il va être atténué, et on ne va plus en entendre parler du tout. autre solution, au lieu du 6 mégas, ici je mets du 14 mégas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? 14 mégas, donc j'arrive sur mes mélangeurs, 14 mégas ici, 10 mégas ici, j'arrive en sortie, 14 moins 10, 4, ou 14 plus 10, 24. Encore une fois, le 24 mégas ici va disparaître, il ne va rester ici que le 4 mégas. Donc en fait, pour mon oscillateur, j'ai le choix entre deux fréquences. Soit une fréquence qui va être en dessous de ma fréquence à recevoir, ou une fréquence qui va être au-dessus de ma fréquence à recevoir. Dans le premier cas, ici, je vais être en supradine, 6 mégas plus 4, je suis supérieur, donc je suis supradine. Ok. Lorsque je fais 14 moins 10, je descends, et donc je suis infradine. Alors, ici, il se trouve que j'ai décidé d'avoir une EFI inférieure ici à ma fréquence de réception. Mais je peux très bien aussi, par un autre calcul, arriver à une fréquence intermédiaire qui serait au-dessus de ma fréquence de réception. Par exemple, ici, 14 mégas. Si j'ai du 14 mégas, si je fais du 14 mégas, et bien ici, je vais avoir soit du 24 mégas en oscillateur, 24 fait 24 moins 10, ça me fait 14, ou je peux avoir aussi du 4 mégas, 10 plus 4 égale 14. Voilà. Donc, ce système-là, on peut... Il suffit après de changer la fréquence ici de l'oscillateur. Alors, il faut la calculer intelligemment, évidemment. Mais en changeant ici la fréquence de l'oscillateur, eh bien, comme ça, et du coup, en l'adaptant à la fréquence intermédiaire et à la fréquence qu'on veut recevoir. Et là, ce qui est très important de ce fait, c'est ce premier ampli RF. C'est celui-là qui va filtrer le 10 mégas. Et la plupart du temps, d'ailleurs, dans les récepteurs que l'on va trouver classiquement, ce n'est pas un amplificateur qu'on va avoir là, c'est juste un filtre. Parce que le problème de l'amplificateur, c'est que souvent, il va ramener du souffle, et c'est pas ça que l'on veut. On ne veut pas de souffle, et donc on va essayer de faire en sorte d'en avoir le moins possible. En revanche, ce que l'on veut absolument, c'est ici de n'avoir que du 10 mégas et pas autre chose. Donc on va plutôt faire en sorte de peaufiner le filtre là, plutôt que de mettre une série d'amplificateurs qui seraient plutôt large bande. Et donc là, le filtre, on va faire en sorte de ne conserver que la bande qu'on veut recevoir. Et donc, selon la bande qu'on veut recevoir, eh bien, on va ici avoir différents filtres, tout simplement avec des contacteurs, des filtres de bande. Et ces filtres de bande vont commuter en même temps les différents oscillateurs qui vont commander ici le mélangeur. Voilà. Voilà la manière dont ça fonctionne. La pratique. Et encore une fois, ici, je n'ai mis qu'un seul étage FI, mais à l'intérieur, bien évidemment, il y a plusieurs amplifications qui sont en cascade, avec des filtres là. Des filtres pour faire en sorte que la fréquence intermédiaire, donc qu'on a sélectionnée à partir ici des fréquences de mon oscillateur, qui vont et donc c'est cette fréquence intermédiaire qui est définie, et on va faire en sorte qu'on ait à la fois ce que l'on appelle de la sélectivité, c'est-à-dire qu'on ne reçoive que la station que l'on veut écouter, donc ça c'est de la sélectivité, et de la sensibilité, c'est-à-dire que je mets une chaîne d'amplification la plus fine possible pour pouvoir ressortir la station la plus faible. Hein, donc, l'avantage de l'AFI, c'est que je peux augmenter ma sélectivité et ma sensibilité, les deux. Alors que dans mon récepteur à conversion directe, je suis coincé puisque je n'ai droit qu'à deux amplificateurs maximum. Après, ça se complique. Ou alors, je fais ma chaîne d'amplification après le démodulateur sur la chaîne audio. Mais là, je perds énormément en sensibilité et en sélectivité aussi. Donc, voilà. Donc, ce système-là a été mis au point il y a très longtemps et ça fonctionne toujours aussi bien. Et donc, on ne change pas quelque chose qui a été mis au point il y a une centaine d'années et qui fonctionne parfaitement bien. Je reviens sur le PDF après avoir montré cette manière-là. Donc voilà, on sait exactement. Alors j'ai pas mis les mêmes fréquences là sur le PDF, mais et sur le cours aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. L'idée c'est toujours la même. Bon, pas de questions. Alors, tout le problème, entre guillemets, hein, tout votre choix, et c'est pas évident, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut faire, sur lesquelles il faut faire attention, c'est choisir la bonne fréquence de l'oscillateur, et la bonne fréquence pour la fréquence intermédiaire. La fréquence à recevoir, c'est vous qui la définissez, et à partir de là, et donc cette fréquence à recevoir, je vais l'appeler HF, la fréquence de l'oscillateur local, je vais l'appeler FO, et la fréquence intermédiaire, je vais l'appeler FI. D'accord ? Donc, je peux avoir trois possibilité, soit la fréquence intermédiaire, soit la fréquence intermédiaire est égale à la fréquence à recevoir moins la fréquence d'oscillation. Et dans ce cas-là, la fréquence intermédiaire, elle est inférieure à la fréquence que l'on veut recevoir. Dans ce cas-là, on appelle ça infradine. Et si la fréquence intermédiaire est supérieure à la fréquence à recevoir, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller pour, avec notre mélange, faire en sorte que la fréquence intermédiaire soit au-dessus de la fréquence de réception, on va appeler ça supradine. Et donc, on peut avoir le cas où, alors en règle générale, quand on fait la soustraction de fréquence, on est plutôt en infradine, et quand on est en addition de fréquence, on est plutôt en supradine. Mais pour des cas bien particuliers, on peut avoir aussi fonctionner en différence, et quand bien même, donc selon le cas, on sera soit en infradine ou en supradine. C'est le cas où on fait la différence entre la fréquence d'oscillation et la fréquence ici HF. Donc là, faut regarder tous les cas de figure en fait. Et tous les cas de figure, l'idée c'est que, alors premièrement, la fréquence intermédiaire ne peut pas être égale à la fréquence de réception. Ça ne marchera pas. Donc déjà, on est coincé. Thomas, ça marchera. Mais du coup, ça va compliquer énormément les choses, parce que vous allez vous retrouver avec des mélanges un peu, des mélanges tordus, quoi. C'est-à-dire que pour, par exemple, si ma fréquence intermédiaire, dans mon cas, ici, si ma fréquence intermédiaire est sur 10 mégas et que ma fréquence à recevoir est sur 10 mégas, ici, il faut que mon oscillateur il soit sur 20 mégas. Puisque 20 moins 10 égale 10. Mais par contre, vous voyez bien que ce sont des fréquences qui sont harmoniques entre elles. Et donc, comme ce sont des fréquences harmoniques entre elles, ça va poser énormément de problèmes. Et donc, on ne fait jamais ça. Parce que ça, on va au-devant de tous les problèmes. Donc on fait en sorte que la fréquence intermédiaire n'est jamais une fréquence qu'on veut utiliser en réception. Donc, encore une fois, si la fréquence intermédiaire est plus basse que la fréquence à recevoir, on est en infradine. Alors, si vous êtes en infradine, on revient sur mon PDF. Si vous êtes en infradine, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que, alors on va mettre des vraies valeurs maintenant, parce que là, j'en ai foutu trop. Donc, 10 mégas. Ici, on va se mettre sur 7 mégas, tiens, pour changer. 7 mégahertz. OK. Donc là, je suis en infradine. OK. Et mon récepteur, je veux aller de 10, mais qu'il aille aussi jusqu'à 10,100. Enfin, c'est pas une bande radio amateur, désolé. C'est pas grave. Comment je vais faire avec mon oscillateur? Donc déjà, j'ai mes 3 mégas. Et donc, 10 moins 3 mégas égale 7. Mais si je veux aller jusqu'à 1100, il faut qu'ici, que mon oscillateur aille jusqu'à 3,1 MHz. Hein? 10,1 moins 3,1 égale 7. Ça, c'est quand je suis en infradine. Maintenant, je me mets en supradine. 17 mégas. Donc, dans ce cas-là, je garde ici mes valeurs, ici en infra. Maintenant, en supra. Pour faire mon 17 mégas, avec 10 mégas, il me faut 7 mégas. Mais pour aller jusqu'à 10,1, puisque j'ai additionné, il faut ici que j'aille jusqu'à 6,9 mégas. 10,1 plus 6,9 égale 17 mégas. Donc quand je suis en supradine, quand je veux augmenter ma fréquence de réception, il faut que je diminue la fréquence de l'oscillateur. Alors que lorsque je suis en infradine, lorsque je veux augmenter la fréquence de réception, il faut que j'augmente la fréquence de l'oscillateur. Voilà. Il faut bien avoir ça en tête. Bon, après, et donc, c'est pour ça que quand on est ici en infradine, on appelle ça de la translation. La fréquence est translatée, là. C'est-à-dire que ça va dans le même sens. Alors que quand on est en supradine, la fréquence elle n'est pas translatée. Et donc là, enfin, c'est plus ou moins une translation sans inversion de spectre, alors que dans le cas supradine, c'est une translation avec inversion de spectre. On verra quand on parlera après de la démodulation, le fait ici qu'on soit en supradine, ça va avoir une incidence sur ici le démodulateur pour certains modes, où on va avoir une action du sens du spectre, typiquement en BLU. Puisqu'en BLU, vous êtes soit en bande latérale supérieure ou en bande latérale inférieure. Et donc, il faut réfléchir à ça quand vous prévoyez votre système. Voilà, je reviens sur mon PDF. Donc, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà. Alors, le système. Alors, le système qui fait correspondre filtre oscillateur. Ah ben, en fait, le système, c'est nous qui calculons, hein. Donc, l'oscillateur est un étage, mais voilà, il n'y a pas de filtre sur l'oscillateur. L'oscillateur, il oscille, point barre. Il génère une fréquence. Et donc, il n'y a pas besoin de filtre pour ça. Et donc, par contre, la fréquence d'oscillation de mon oscillateur, elle se calcule avec tous ces paramètres-là. Et il faut tout anticiper les problèmes qui peuvent arriver à la suite. Alors, on a des récepteurs dont on parlera un peu la semaine prochaine ou un petit peu après aussi, je ne sais même plus. Je pense que c'est plutôt la semaine prochaine, qu'on appelle des récepteurs à conversion directe. Ceux-là, ils sont assez bizarres parce que, en fait, toute l'amplification, elle est faite ici en audio. Le premier amplificateur qui est là, enfin c'est pas un amplificateur d'ailleurs, c'est un filtre de bande, ça arrive directement sur un mélangeur et un oscillateur, donc il n'y a aucune chaîne d'amplification ici. Le démodulateur, c'est finalement ici le mélangeur. Et ça, c'est quelque chose qui va être utilisé essentiellement dans les modulations d'amplitude. Donc ce sont des récepteurs hyper simples, donc qui ressemblent un petit peu à des récepteurs sans conversion, mais comme ils ont un oscillateur local finalement, et l'oscillateur local, il est sur la fréquence que l'on veut recevoir. Donc c'est ce mélangeur ici qui joue aussi le rôle de démodulateur. Et toute l'amplification, elle va être faite ici en audio. Et quand on dit toute l'amplification, c'est mes fameux coefficients de 10 000 ou de 100 000 en tension qui va être ici généré par l'amplificateur audio. Donc, alors, tu fais de la cape à double variable qui fait en même temps changer la fréquence de l'oscillateur. Et changement. Alors attends, pourquoi je mets j'ai pas besoin là dans mon amplificateur à fréquence intermédiaire, j'ai pas besoin d'une capa à double cage, hein, puisque j'ai mon oscillateur. Alors en revanche, je peux m'amuser avec la deuxième cage à faire varier. Ici, et c'est un truc très tordu, à faire varier ici la fréquence du filtre. Mais c'est pas aussi évident que ça, et c'est typiquement ce qu'il y avait dans les postes à lampe. Hein. C'est que vous aviez le premier amplificateur RF là, et c'était ça qui posait problème, parce que souvent les deux système n'était pas pile poil bien adapté. Donc c'est ça qui posait problème. Donc le double cage, là, c'était la fréquence de l'oscillateur et la fréquence du premier étage RF. Mais pas évident à gérer ce truc-là. Et donc, voilà, c'était ça qui posait problème et qu'il fallait souvent réaligner parce qu'évidemment, il peut y avoir des changements du coup dans la bobine, soit du côté RF ou du côté oscillateur local puisqu'ils n'ont pas la même fréquence. Donc c'est un peu compliqué à gérer ça. Voilà, c'est l'histoire de la double cage. Mais tous ceux qui réparent des postes à lampe anciens savent que c'est très difficile à régler. Enfin, tout moins une fois que le truc il est déréglé, pas évident de retrouver les bons réglages d'origine. En tout cas, celui-là, il n'y a pas besoin de double cage, à part ici peut-être ce filtre RF, où du coup on va être obligé. Alors, la plupart du temps, c'est un filtre de bande. Mais si on veut être, si on a une bande très large, ben on est coincé, on est obligé de mettre un condensateur variable qui du coup sera sûrement couplé ici à l'oscillateur, au condensateur de l'oscillateur local. Ah, je change manuellement la bande de fréquence, puis je règle l'oscillo. Ça, en théorie, c'est comme ça qu'il fallait faire. Tout au moins dans les premiers récepteurs, c'est comme ça qu'on faisait. Pour ça qu'il y avait deux condensateurs. Après, ça s'est un peu simplifié en mettant le condensateur double cage, mais du coup, ça nécessitait des réglages un peu plus compliqués. Oui, et ce système-là à conversion directe, et donc ce filtre de bande-là, c'est bien un filtre large bande. Si on a besoin d'une bande passante importante, alors évidemment, il faudra aussi se limiter peut-être un petit peu. Hein. C'est-à-dire pas question de faire de 100 kHz à 150 mégas. Hein, ça ne marchera plus. Faudra se limiter à déjà une bande radioamateur, par exemple 80 mètres, qui fait 350 kg à 3,5 mégas, ça fait quand même 10% de battement, hein, entre 3,5 et 3,8, il y a 10%, 3,850 même, il y a 10% d'écart, ce qui est énorme, et donc peut-être qu'il faut re-régler le filtre de bande pour que ça marche mieux, tout simplement. Voilà, et ce système-là, donc, ça va être utilisé essentiellement dans tout ce qui est numérique. Et donc, ici, on va remplacer l'étage AF par un étage de traitement numérique du signal, qui va donc faire l'amplification, mais aussi la démodulation. Et donc, dans ce cas-là, si on est ici en traitement numérique du signal, on n'est plus obligé d'être en modulation d'amplitude, on peut faire tout ce que l'on veut. Alors le synoptique de l'ancêtre, là, c'est ce système-là. Avec un oscillateur local, un filtre RF, un oscillateur local, FI, des modulateurs. Et l'OL va non pas sur le RF, mais sur le mélangeur. L'oscillateur local va directement sur le mélangeur. Alors que dans ce, enfin ici, c'est pareil, l'oscillateur local ici va sur un mélangeur. Dans les deux cas. Dès qu'on voit oscillateur local, derrière, il faut se dire il y a un mélangeur. Puisque l'oscillateur local tout seul ça veut strictement rien dire. Donc, pour essayer de voir comment ça fonctionne à peu près, ici, ça c'est le signal reçu par l'antenne, donc c'est toute la bande ici, par exemple la bande des 10 mégas, hein, donc avec plusieurs pointes ici qui représentent les différentes stations. Moi, je veux recevoir ici la petite station, enfin la petite, celle qui est là. Ok, donc mon filtre de bande, c'est-à-dire celui-là, le filtre de bande, ça c'est ce qui arrive sur mon antenne où il y a toute la bande. Ici, le filtre de bande, je vais faire en sorte de ne garder ici que la bande radio amateur, tant qu'à faire. Parce que ici, de ce côté-là et au-delà, c'est plus la bande radio amateur, donc je m'en fous. Donc je vais faire un filtre de bande où je ne vais garder finalement que... Hein, c'est une belle bosse. Alors une bosse pas trop pointue, mais bien plate, là, pour que j'ai l'intégralité de la bande qui soit en réception. Ici, j'ai mon oscillateur local, donc ici, je suis en supradine, puisque j'ai ici mon oscillateur local qui va translater la fréquence, ici, sur ma fréquence intermédiaire. Et selon, ici, la fréquence que je fais varier, eh bien ici, je fais varier ici la fenêtre de tir de ma fréquence intermédiaire. Et je calcule pour que la fréquence ici du signal que je veux recevoir coïncide, en faisant varier ici ma fréquence de mon oscillateur local, coïncide ici avec la fenêtre de tir de ma fréquence intermédiaire. Et je vois qu'ici, si ma fréquence intermédiaire, elle n'est pas suffisamment étroite, donc si elle n'est pas assez sélective, je vais ici récupérer le signal d'une station à côté, hein, mon signal ici, alors qui est certes peut-être un peu en dessous, mais qui va quand même perturber ma réception. Donc idéalement, il faudrait ici que mon signal, que mon filtre, la pente ici de mon filtre, soit beaucoup plus étroite pour que je ne puisse recevoir que la station que je veux écouter et pas la station adjacente. D'accord ? Donc c'est pour ça que cette notion ici de fréquence intermédiaire est importante, parce que dans certains cas, alors pas dans les vieux postes de réception, mais dans les postes modernes, vous pouvez ici sélectionner la largeur ici de votre fréquence intermédiaire. C'est les fameux DSP, dont vous réglez finalement le spectre. Alors vous avez des vieux DSP qui ne jouaient que sur le signal audio, et dans les DSP modernes, dans toutes les stations maintenant, vous jouez sur un DSP qui joue sur la fréquence intermédiaire, et donc vous avez ici la largeur de bande variable par une commande sur votre récepteur, sur votre émetteur-récepteur. Et évidemment, plus vous avez quelque chose de pointu, plus vous allez avoir une musicalité. Donc, alors, quand vous êtes en BLU, ça va vous embêter parce que vous n'allez plus reconnaître la voix du correspondant. Et du coup, si vous avez une trop faible bande passante, bah du coup vous allez avoir une très mauvaise qualité audio du signal, tout au moins quand vous êtes en modulation d'amplitude. Quand vous êtes en modulation angulaire, là, quelquefois, vous pouvez ne plus rien avoir du tout parce que pas suffisamment de largeur de bande et donc pas suffisamment de signal pour pouvoir faire fonctionner votre démodulateur. Parce qu'évidemment, après, vous avez le démodulateur. Ici, on est encore au niveau de la fréquence intermédiaire. Donc ça, c'est bien pour vous fixer les idées de mes différents étages. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette idée aussi, quand je vous avais montré un analyseur de spectre, ça, c'est typiquement une visualisation à l'analyseur de spectre. C'est-à-dire que vous avez ici les différentes tensions, et ici, ce que vous avez ici en abscisse, ici, ce sont les fréquences. Donc ce n'est pas un oscilloscope, c'est un analyseur de spectre que vous avez là. Et donc, c'est plus cette analyse fréquentielle plutôt que temporelle. Temporelle, c'est plutôt oscilloscope. quelques questions issues des questions d'examen, assez simples. Alors, c'est peut-être pas les nombres qui ont été proposés à l'examen, mais voilà, c'est toujours un peu. Donc, on vous propose deux fréquences, une fréquence à recevoir, une fréquence d'oscillateur, et on vous demande donc quelle est la fréquence possible de la fréquence intermédiaire. Et donc là, en fait, il y en a deux possibles. Il y a 8 plus 5, 13, et 8 moins 5, 3. Donc vous avez deux possibilités. Alors, évidemment, dans les questions d'examen, vous avez toujours qu'une seule réponse possible, donc vous allez avoir ou 13 ou 3, et trois autres réponses. Voilà. Et enfin, une autre question. Alors ça, c'est par rapport à ce que l'on avait vu la semaine dernière sur les fréquences, puisqu'on avait des calculs avec la fréquence de sortie, enfin les fréquences de sortie, et en fonction des fréquences de sortie, quelles étaient les fréquences d'entrée. Et donc là, on va avoir cette même problématique. Fréquence de sortie, c'est donc la fréquence intermédiaire. Et à partir de la fréquence intermédiaire et de la deuxième fréquence la fréquence intermédiaire et la fréquence d'oscillation, on peut remonter à quelle est la fréquence à recevoir. Et donc, il faut raisonner en sens inverse, en fait. Donc là, si on a FI 9 mégas et la fréquence d'oscillateur, 12 mégas, on peut avoir en réception à recevoir deux fréquences selon qu'on est en infradine ou en supradine. Quand on est en infradine, donc on va être supérieur, donc on va faire 9 plus 12, hein, 21 mégas en réception, moins 12 de mon oscillateur local, ça me fait mes 9 de ma fréquence intermédiaire. Et je suis bien en infradine, puisque je suis passé de 21 à 9. En revanche, je vais être en supradine si je fais l'inverse, c'est-à-dire 12 moins 9, 3, donc j'ai 3 mégas en réception. Je vais le faire au tableau, ça va être plus simple sur mon. J'efface ce que je viens d'écrire et on se le fait au tableau blanc. Ça sera plus simple parce que c'est tordu. Enfin, c'est tordu. Non, faut avoir un peu de méthode, je dirais. Donc. J'ai un oscillateur, un mélangeur, un oscillateur. Ici, une FI. Ma FI, elle fait 9 mégas. Mon oscillateur, il fait 12 mégas. Quelle fréquence j'ai ici? En fait, soit j'ai 12 moins 9, 3. Pourquoi? Parce que 12 moins 3 égale 9, ou j'ai 9 plus 12, donc 21, et 21, ça me fait donc 21 moins 12 égale 9. Donc là, mes deux fréquences HF d'entrée peuvent être 3 ou 21. Ok, donc ça c'est une fois que vous avez bien c'est plus de la jugeote qu'autre chose. Hein. Donc voilà comment résoudre cette problématique. C'est pas si compliqué que ça. Faut juste poser le schéma et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je reviens sur mon PDF. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les récepteurs modernes sont dotés d'un DSP. Alors, que veut dire DSP ? Ça veut dire Digital Signal Process, qui veut dire en anglais traitement numérique du signal, tout simplement. Et donc, cet étage DSP, il est situé soit avant l'amplificateur audio, et donc avant aussi le haut-parleur, mais le mieux, c'est quand même qu'il soit intégré à la fréquence intermédiaire, sous réserve que la fréquence intermédiaire ne soit, enfin, que la fréquence de la fréquence intermédiaire ne soit pas trop élevée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un supradine qui serait aux alentours de 150 mégas ou quelque chose comme ça. Parce que là, ça se complique un petit peu pour le DSP. Donc il faut quand même que la fréquence de la fréquence intermédiaire soit raisonnable aux alentours de 10 mégas pour que ça fonctionne bien. Tout au moins, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de la technologie. La technologie évolue très vite, et donc on pourrait avoir des DSP qui montent beaucoup plus haut en fréquence. Évidemment, ça coûte aussi un peu plus cher, et peut-être qu'il n'y a pas autant de fonctions que pour des DSP qui seraient plus bas en fréquence. Encore une fois, c'est du traitement numérique du signal, donc ça tout va dépendre du cadencement de toute l'informatique qu'il y a derrière. Voilà. Plus on va aller vers des cadences élevées, plus on va pouvoir monter en fréquence. Voilà. Et évidemment, ce traitement numérique du signal, bah, ça fait appel à ce que l'on avait vu quand on avait vu le chapitre 8, c'est-à-dire les convertisseurs analogiques numériques, donc les fameux CAN, donc le CAN, c'est ce qui transforme le signal analogique, donc HF, en signal numérique, et le CNA, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il retransforme le signal numérique, donc informatique, en signal analogique, donc audio utilisable sur un haut-parleur, par exemple. Hein? Et entre les deux, bah, on a toute la chaîne de traitement numérique du signal. Et donc ce traitement numérique du signal, ce sont des algorithmes, on les a vus hein, quand on avait fait ce chapitre 8, et alors, il y a un truc qui est très important, c'est que le nombre de bits de codage du signal, c'est ce qui va déterminer la dynamique du circuit. La dynamique, c'est quoi ? C'est le rapport entre le signal le plus faible traité et le plus élevé traité. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de pas de quantification. Le pas de quantification, c'était les écarts que j'avais à chaque fois quand j'avais mes différents niveaux de signal, et donc pour transformer mon signal en signal numérique. Et à chaque fois que je rajoute un bit, en fait, je multiplie par deux le pas de quantification, enfin la quantification qui est le nombre de cas possibles de mon signal. Et comme je multiplie par deux, donc ça c'est une tension, du coup je multiplie par 4 la puissance. Hein, c'est P égale U de sur R, hein, ça marche bien à tous les coups. Et comme je multiplie par 4 la tension, eh bien, je ramène à chaque fois 6 dB de dynamique par bit de codage. Et donc, on va avoir des systèmes de traitement numérique qui font intervenir jusqu'à une dizaine, voire 12, 13 bits. Pas tellement plus, parce qu'après, on va avoir une dynamique qui va être énorme, tout simplement énorme. Puisque si vous avez 12 bits de codage, 6 fois 2, ça me fait 72, vous allez avoir 72 décibels de dynamique. Ce qui est quand même pas mal. 72 décibels, c'est donc 100 000... 72... Non. 10 000. Ouais, 10 000. Donc on va avoir encore un petit coup, un petit chouille, et 80 dB, on va dire. Et donc on va avoir un rapport de 100 000 entre le plus petit signal démodulé et le plus fort. Donc voilà. Alors sachant que les récepteurs classiques analogiques, ils ont une dynamique d'environ 100 décibels, pas plus. Donc avec du numérique, avec 14 bits, eh ben, on arrive à nos 100 décibels. Donc 14 bits, c'est 14 bits de codage. Donc ça sert à rien d'avoir plus. Et de toute façon, après, si vous en avez plus, vous avez la problématique du traitement, c'est-à-dire que plus vous avez de bits à traiter, plus votre bécane, elle va ramer pour les traiter. Voilà. Et une fois que vous avez traité tout ça, eh ben, vous retransformez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous passez par un convertisseur numérique analogique pour retrouver de l'ABF, si vous voulez retrouver de l'ABF. Parce que vous pouvez rester en numérique jusqu'au bout si vous voulez faire du traitement numérique, comme par exemple du texte ou de la data. Alors on en parle rapidement, c'est sur les SDR. Un SDR, donc, c'est un récepteur très particulier parce qu'il n'y a quasiment rien d'analogique, c'est quasiment tout du numérique. Et donc tout le traitement, oui, est fait par du traitement numérique du signal. Et donc au lieu d'utiliser un convertisseur analogique numérique classique dans les SDR, on va utiliser ce qu'on appelle un mélangeur à double sortie, les fameux IEQ. Alors on se dit, mais à quoi ça sert ça ? Et bien en fait, ça va faire en sorte que le traitement numérique, tout au moins la conversion analogique numérique, va être très rapide. Et du coup, on va pouvoir monter beaucoup, beaucoup plus rapidement en fréquence. Avec un CAN classique, on monte à 50 mégas maxi. Avec un mélangeur IQ, on va pouvoir monter à 1 giga sans problème. Tout ça parce que on a ce traitement numérique particulier qui accélère énormément tous les calculs. Et donc ça monte en fréquence plus rapidement. Et pourquoi ? C'est qu'on a besoin de beaucoup moins. Quand je vous ai expliqué la manière dont fonctionnait un convertisseur analogique numérique, je vous avais dit qu'il fallait un certain nombre d'échantillons pour pouvoir traiter le signal. Avec un mélangeur IQ, vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'échantillons pour traiter ce même signal et lui donner les mêmes caractéristiques. Et donc, comme vous avez besoin de moins d'échantillons, le traitement est beaucoup plus rapide et donc vous allez pouvoir, avec le même matériel, monter beaucoup plus haut en fréquence. Et le plus intéressant, c'est que ces convertisseurs IQ, la plupart du temps, ils sont intégrés à des cartes son. Et donc, on peut facilement, comme ça, monter jusqu'à... avec une carte son, avoir une bande passante, parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir un mélangeur, donc qui va pouvoir faire... être infradine, donc redescendre... au niveau BF, d'où l'intérêt de revenir à ce genre de matériel qu'on a ici, parce que votre mélangeur IQ, ça va être celui-là. En fait, il va y avoir deux oscillateurs et deux mélangeurs, et vous allez avoir une sortie I et une sortie Q. Donc une sortie en phase et une sortie en déphase. On va voir plus précisément ce que c'est. Donc quand vous avez ces sorties-là, I et Q, eh bien vous les avez sur votre carte son de PC, et les logiciels qui permettent d'activer les fameuses clés SDR, là, dont tout le monde parle, eh bien elles vont fonctionner avec la carte son du PC. Et parce que tous les bouts de logiciels vont taper dans la bibliothèque de la carte son du PC. Donc, pour revenir à notre histoire, donc voilà, ici, ça c'est une présentation. Alors, le lien, il existe toujours là, ici, vous l'avez là, vous pouvez cliquer dessus. Vous tapez aussi F4GKR Congrès 2016. Et vous allez tomber sur le PDF si ça vous intéresse. C'est assez long, hein, donc il faut être bon. Hein. Je vous le dis tout de suite. Faut bien comprendre pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est toute la présentation qui avait été faite lors du congrès en 2016. Donc ça fait maintenant 5 ans par Sylvain F4GKR. Et donc l'idée, c'est quoi? Donc ça, c'est mon signal, donc c'est mon antenne. Ici, mon filtre de bande. Un amplificateur dont le gain est variable. Voilà, pour ajuster au mieux la puissance que je reçois de l'antenne. Un deuxième filtre ici, donc deux filtres avec entre les deux ce fameux amplificateur à gain variable, et ici j'ai deux mélangeurs. Alors un seul oscillateur, mais ici un oscillateur qui me génère deux signaux ici déphasés de 90 degrés. Et donc j'ai un mélangeur ici avec un filtre passe-bas derrière, et un deuxième mélangeur ici avec un filtre passe-bas derrière. Et les deux mélangeurs, là, sont déphasés de 90 degrés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, si le point ici que je veux numériser est ici, si je n'ai qu'un seul indicateur, donc le I, par exemple, eh bien, je vais savoir qu'ici, ben voilà, il est à 0,69, mais en aucun cas je peux savoir précisément où il va être sur toute ici donc je sais ici d'un point de vue du cosinus, mais du point de vue du sinus ici je ne sais pas où il se trouve, et donc il va falloir que je fasse des extrapolations en fonction du point que j'ai pu constater un peu avant, ou du point que j'ai constaté, et du point que j'ai constaté un peu après. Enfin, ou plutôt des points que j'ai pu constater avant, et des points que j'attends, et que je vais constater après. Donc j'ai tout un tas de traitements comme ça, qui sont très longs, parce que j'attends qu'est-ce qui va se passer après, et donc pour conclure, finalement, on se trouve mon point, parce qu'avec juste cette information-là, je ne sais pas où il se trouve là-dedans. Alors que si j'ai un deuxième point ici sur mon sinus, j'ai deux points, donc mon 0,40, mon 0,69, et ben je sais parfaitement qu'il se trouve ici. Et je n'ai pas besoin d'avoir à calculer différemment. Donc avec deux points déphasé de 90 degrés, donc voir ce qui se passe sur le cosinus et voir ce qui se passe sur le sinus, et bien comme ça je sais parfaitement où se trouve le point. Et sans être obligé de faire des calculs de ce qui s'est passé avant et d'attendre ce qui va se passer après. Et donc ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de... Enfin, lorsqu'il n'y a qu'un seul signal, donc le fameux I, c'est-à-dire que je ne vais pas savoir exactement où je suis, donc je vais avoir deux possibilités, finalement. Hein, je peux être soit ici, soit ici, et puis, un peu aussi partout entre les deux. C'est pour ça qu'ici, on a quelque chose qui est assez fluctuant. En revanche, on a quelque chose qui est beaucoup plus pointu avec un signal IQ et je n'ai qu'un seul signal. Et c'est ça qui est important. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les SDR. Encore une fois, heureusement, pas de questions à l'examen dessus, parce que sinon, là, tout au moins pas encore. Je ne sais pas s'il y en aura, je ne sais pas quelle tête elles auront. Peut-être simplement, je ne sais pas quoi, sur un échantillonneur IQ, de quoi est-il constitué, il y aura deux mélangeurs et un oscillateur, enfin deux oscillateurs déphasés de 90 degrés. Je ne sais pas, par exemple, quelque chose comme ça, mais en tout cas, pas de questions sur des calculs. Parce que là, évidemment, on ne parle pas de calculs, dans ce que je vous ai fait, mais dans la présentation qu'a fait Sylvain, il y a des calculs. Et c'est pour ça que j'en parle pas des calculs, parce que j'ai un peu de mal à conceptualiser. Donc je préfère ne pas en parler. Voilà. Mais sachez que ça existe et qu'il y a des gens qui sont très à l'aise là-dessus. Moi, pas du tout, mais il y en a sûrement que vous allez rencontrer par la suite qui vont être plus à l'aise que moi et qui vont vous expliquer ça de manière très détendue. On en arrive à une partie un peu tordue qui va parler de la fréquence image. Ne pas confondre la fréquence image et la fréquence intermédiaire. La fréquence image, c'est une conséquence d'un récepteur qui n'est pas parfait. Qu'est-ce que la fréquence image ? Déjà, la fréquence intermédiaire, c'est quoi ? C'est la résultante de la fréquence à recevoir et de la fréquence d'oscillation. Donc, je fais addition des deux fréquences ou différence de ces deux fréquences. Hein ? C'est les deux résultats possibles à la sortie de mon mélangeur. Mais ça, et je reviens sur mon récepteur, que je vais redessiner, je reviens sur mon PDF. Alors, j'ai mon antenne, mon premier étage RF, mon mélangeur, mon oscillateur, ma FI, mon démodulateur AF et mon haut-parleur. Ah, ma webcam s'est barrée. Voilà. Imaginons que je veuille recevoir la bande 80 mètres. Et donc 3,5 à 3,8. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un filtre qui fait 3,5 à... Pourquoi tu viens là, toi ? À 3,8. Donc ça, c'est ce que je vais mettre ici comme filtre, hein. Donc là, c'est un filtre de bande. Voilà, un joli filtre de bande comme ça. Ici, ma fréquence intermédiaire, elle va faire 9 mégas. Ça, c'est ce que j'ai défini. Donc, que faut-il pour que ici, à partir de mon 3,5 mégas, j'arrive ici en supradine à 9 mégas. Il faut ici que je rajoute donc 5,5. Si ici je suis à 3,5 plus 5,5, ça fait 9 mégas. Et donc à 5,2, puisque 5, 3,8 à 5,2 égale 9 mégas. Ok ? Donc ça va très bien marcher. Maintenant, imaginons que le filtre que j'ai mis là, il est pourri. Il est pourri et donc il laisse passer d'autres fréquences que 2,3,5 à 3,8. Et, par exemple, une fréquence qui va beaucoup m'emmerder, qui va être la fréquence image. Si je prends du 14 mégas, vous remarquez, 3,5 bande radio amateur, 14 mégas bande radio amateur. Ça commence à se compliquer. Donc vous avez votre voisin qui est sur une autre bande que la vôtre. Vous êtes vous sur le 80 mètres, lui il est sur le 20 mètres. Imaginons que ce 14 mégas passe, alors plus exactement, il est sur 14,2. Ça, c'est possible. Et vous écoutez, du coup, le 3,7. 3,7. Si vous écoutez le 3,7, la fréquence ici d'oscillation, elle doit être donc de 5,3. Et donc, alors pardon, ici, si ici mon voisin il est sur 14,300, 14,300 moins 5,3 égale 9 mégas. C'est-à-dire que si mon filtre ici est pourri et que mon 14 mégas arrive à passer au travers, malgré que ce soit un filtre passe-bande, eh bien, ici, 14,3 moins 5,3 égale 9. Et je vais entendre mon voisin. Alors qu'il est sur 14 mégas. Et qu'il émet bien sur 14 mégas, qu'il n'a pas un émetteur pourri. Par contre, c'est mon récepteur qui est pourri. Et du coup, eh ben, je l'entends. Et je l'entends, je crois l'entendre sur le 80 mètres. Et donc je lui dis gentiment, t'as un émetteur pourri qui bave et que je t'entends aussi sur le 80 mètres. Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est votre récepteur dont le premier étage ici est de mauvaise qualité et qui laisse passer le 14 mégas. Et donc la fréquence intermédiaire, la fréquence image dans ce cas-là, ici, ça c'est la fréquence image. Et donc la fréquence image, elle est issue d'un mélange. Alors là, on a plusieurs calculs de fréquence image. Parce qu'on peut aussi en avoir sur d'autres, avec d'autres mélanges. Hein, c'est-à-dire que si je prends par exemple, alors attendez, il faut que j'y arrive. Là, je suis en infradine. Est-ce que je vais en avoir un deuxième? Je vais avoir un peu de mal peut-être à vous le trouver. Je vais avoir du mal à vous le trouver. 5. Ben, j'ai un peu de mal à les trouver là. Désolé, mais il doit y avoir encore une autre solution pour avoir cette fréquence d'image. Quoique non, puisque là, ici, non, je suis, donc il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule fréquence image, et la différence, là, c'est, donc entre mon 3,7 et 14,3, c'est deux fois, ici, la fréquence de l'oscillateur. Parce que, ici, je suis en infradine. Si j'étais en supradine, je pourrais en avoir deux. Alors, il y a aussi une inversion de la bande latérale, effectivement. Donc, on va peut-être pas le recevoir aussi bien, mais tout au moins, on verra que on ne reconnaîtra peut-être pas sa modulation si on est en BLU. Mais quoique, attention, parce que comme on est en bande latérale inférieure sur le 80 mètres et en bande latérale supérieure sur le 14 mégas, comme ça va aussi inverser la bande latérale, on va se retrouver dans le bon sens, là. Ça aurait été vrai, ça, si les deux n'avaient pas été... Si on n'avait pas une en BLI et l'autre en BLS. Là, du coup, comme on change à la fois... Enfin, on fait l'inversion de puisqu'on va se retrouver en infradine, donc on va retourner la bande... Et en plus, on va du coup être dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est très 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 tordu comme truc, hein. Mais de toute façon, enfin pour ces histoires de bande latérale supérieure ou inférieure, on verra ça la semaine prochaine. Je reviens sur mon PDF. Et donc ma fréquence intermédiaire, selon que je suis en supradine ou en infradine, eh bien, elle va avoir plusieurs... Enfin, il va y avoir plusieurs formules. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que l'écart entre la fréquence à recevoir et la fréquence intermédiaire, c'est toujours soit deux fois la fréquence intermédiaire ou deux fois la fréquence de l'oscillateur. Enfin, selon le cas de figure ici, selon les différents cas. Voilà. Et donc, cette fréquence image, elle va nous poser des problèmes, et le moyen de contourner cette fréquence image, c'est de faire en sorte ici que ce premier filtre-là soit ne laisse passer que le 80 mètres, que le 3,5 mégas. La question très tordue, c'est donc par exemple celle-là, quelle peut être la fréquence image? Donc on ne demande pas quelle est la fréquence intermédiaire, mais quelle est la fréquence image. D'accord? Donc ici vous avez la fréquence de l'oscillateur, 1 méga ici la fréquence de l'oscillateur, ici la fréquence de réception 650 kHz, et donc on demande quelle est la fréquence image. Donc la fréquence intermédiaire ici, ça peut être 1,650 ou 350. D'accord? Et à partir de là, on repart dans l'autre sens. Et donc, de 1,650. Alors attendez, oula. 1,650 ou 350, alors qu'est-ce que je peux avoir comme réponse? 1,650 moins 2 fois 1 méga, ça me fait... Alors, donc, qu'est-ce que c'est la logique, là? Parce que faut tâtonner, là, en fait. Hein. Donc, la fréquence peut être 1,350 moins 1000, donc 350... ou 2,65 ou 2,650 ou 2,65. Mais comme le 2,65 n'était pas une des réponses possibles, bah, ça peut être que 1,350. C'est très compliqué, ça. Ça demande encore de la réflexion, faut se l'écrire et essayer de voir. On va essayer de le faire au tableau blanc pour que vous compreniez mieux le raisonnement, parce que le mieux c'est de décrire tout ça. Donc ici mon oscillateur, ici j'ai 1 méga, ici 650 kilos, donc, et en sortie ici j'ai soit 1,650 ou 350, d'accord? C'est les deux fréquences intermédiaires possibles que je peux avoir. Dans le cas où j'ai ici, où je retiens ici ma fréquence intermédiaire sur 1,650. 1,650 plus 1 méga, ça me fait 2,650. On regarde quand même, 2,650, je le mélange à 1 méga, ça me fait bien 1,650. Ok ? Inversement, ici, si je prends 350, 1 méga plus 350, ça me fait 1350. Et 1350 à mélanger avec 1 méga, ça me met bien 350. Donc, 650 et 1350, ce sont mes deux fréquences images possibles avec ce couple ici de fréquences. Ce couple ici de fréquences va me donner ces deux fréquences intermédiaires et du coup va me donner ici les deux fréquences images qui sont ici. C'est très, très tordu, hein. Et encore une fois, il vaut mieux l'écrire plutôt, et le dessiner plutôt que d'essayer de raisonner sans papier. Je reviens sur mon PDF. Donc pour limiter ce problème de fréquence image, qui est quand même, parce qu'on s'en est aperçu très rapidement de ça évidemment, hein, de cette grosse problématique, donc on a essayé de faire en sorte de faire en sorte que ce premier étage amplificateur ou de filtre soit le mieux fait possible. Et donc il y a deux solutions. Premièrement, faire en sorte que ce filtre soit le plus efficace possible. C'est pas toujours évident, notamment quand on a à traiter des signaux faibles, parce que voilà, les signaux faibles, faut bien les filtrer, et donc les filtrer, ça va être un peu compliqué, surtout face à des signaux forts que l'on peut avoir sur des bandes adjacentes qui ne sont pas sur celles que l'on veut recevoir. Ok, donc voilà, premier problème. Et donc on est arrivé, et ça c'est une solution qui a été adaptée, je dirais. Enfin, utilisé très souvent à partir des années 80-90, notamment avec l'arrivée des scanners, où là, on essayait de faire des économies un peu dans tous les sens, et notamment sur les étages de filtre. Et comme en plus, les scanners, par définition, c'était une très 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 large bande, eh bien, on était un petit peu coincé sur ce premier étage RF, et donc la solution, ça a été d'utiliser une première FI très élevée. Donc ici, cette première FI, elle est, on va dire, par exemple, 100 mégas, mais voire plus, pour faire en sorte que, ici, le filtre de bande, en fait, on met juste un filtre passe-bas, et puis zou, ça suffit, puisque si je suis ici en supradine à 100 mégas, ici, ma fréquence image, elle va être du coup, à 200-300 mégas. Et donc, si je mets ici un filtre passe-bas, eh bien, mon 300 mégas, il passera pas. Et un filtre passe-bas, c'est assez facile à faire. C'est beaucoup plus facile que faire un filtre de bande. Et donc ici, une fois que je suis arrivé ici très haut en fréquence, je prends un deuxième mélangeur. ici avec une fréquence fixe, et je vais redescendre ici sur ma deuxième fréquence intermédiaire. Ici, je ne fais qu'ici qu'un tout petit passage avec très peu d'amplification. Et en revanche, je redescends sur une fréquence intermédiaire beaucoup plus basse, aux alentours de quelques dizaines de mégahertz, ou même moins, hein, aux alentours de 10 mégas. Et là, je fais toute ma chaîne d'amplification, de sélectivité, de sensibilité, de tout ce que vous voulez, à ce niveau-là. Et après, je mets ma chaîne de, là en l'occurrence, détecteur de produits, donc c'est un type particulier de démodulation. Mais la question, là, c'était, quel est ce type de récepteur? Et ce type de récepteur, c'est un récepteur à double changement de fréquence. Et donc ici, j'envoie très haut ma première fréquence intermédiaire pour éviter tous mes problèmes de fréquence image. Donc, en conclusion, pour mon récepteur à double changement de fréquence, l'oscillateur variable, c'est toujours ici mon premier oscillateur. En revanche, mon deuxième oscillateur, ici, c'est un oscillateur fixe, puisque ma première fréquence intermédiaire et ma deuxième fréquence intermédiaire, ben, elles ne bougent pas, celles-là, elles restent fixes. Donc, ben, j'ai besoin ici d'un mélangeur et d'un oscillateur à fréquence fixe. Voilà. Et souvent, l'étage DSP, dans ce genre d'appareil qui ressemble, c'est des synoptiques de scanner, ça, hein, ça va se traiter ici, soit ici sur la partie détecteur de produits, ou sur la partie ici audio. On en arrive à la sensibilité d'un récepteur. On en a parlé un peu au fur et à mesure. Hein, donc, la fréquence intermédiaire, encore une fois, c'est ce qui va permettre et de la sensibilité et de la sélectivité. Sélectivité, c'est la bande passante. Je ne sélectionne que la bande où se trouve l'émission que je veux recevoir. Et la sensibilité, c'est je veux recevoir la plus faible émission possible avec mon matériel. Et donc la sensibilité d'un récepteur va se mesurer par le signal d'entrée minimum. Et ce signal d'entrée minimum, eh bien, ça va se mesurer, et ça va se mesurer en milliwatts, voire plus petit. Et donc, plutôt que de donner des milliwatts, on va donner des dBm, donc des décibels par rapport au milliwatt. Et comme le milliwatt, c'est une grosse puissance quand on est en réception, on va avoir toujours des décibels négatifs, donc ça va être en dessous de ce décibel milliwatt. Donc voilà. Et donc plus un récepteur est sensible, plus le nombre de décibels négatifs mais par rapport au milliwatt sera important. Donc voilà. Et quand on regarde le matériel radio, on a, alors il y a en théorie un standard qui se mesure le point S du S-mètre, et le point S du S-mètre, ça doit correspondre à quelque chose. Et donc, en dessous de 30 mégas, donc en décamétrique, la norme, c'est très théorique, et je pense que tout le monde va se lâcher sur le chat, une fois que j'aurai dit ça, la norme théorique, c'est qu'un signal qui est indiqué S9 sur la barre de votre S-mètre devrait correspondre à 50 millivolts à l'entrée de votre récepteur évidemment sur une charge de 50 ohms. Parce que évidemment, si ce n'est pas sur une charge de 50 ohms, ça va se compliquer puisque vous allez avoir les problématiques d'adaptation qu'on a vues la semaine dernière. Mais voilà. Et donc, quand on calcule ce 50 microvolts et qu'on ramène ça à 50 ohms, hein, on prend, prend la loi d'ohm, hein, P égale U2 sur R, hein, puisque la tension, on l'a. R, ben, c'est 50 ohms. Et donc, la puissance, on va la récupérer, qui va être très faible. Et cette puissance, on va la transformer en décibels par rapport au milliwatt. Et donc, ce S9 va correspondre à moins 73 dBm. Et puis après, on sait que pour chaque point S mètre, on a 6 dB entre les deux. Pourquoi ? C'est que chaque point S mètre, à chaque fois la tension est divisée par 2. Donc si la tension est divisée par 2, la puissance est divisée par 2, et donc il y a par 4, pardon, P égale U2 sur R, encore une fois, et donc il y a entre chaque point S mètre 6 dB, puisque la tension est divisée par 2. Et donc quand on arrive au S0, donc c'est 73 dB, moins 6 fois 9 décibels, et donc ça me donne donc 127, moins 127 dBm. Et moins 127 dBm, ça correspond à 0,1 microvolt sous une impédance de 50 ohms. Voilà, donc voilà. Et quand on parle de S0, en fait, c'est, en règle générale, c'est pour les matériels classiques récents, c'est le niveau de sensibilité général, qui est généralement annoncé, parce que soit il est donné en dBm, ce seuil de sensibilité, soit il est donné en microvolts à l'entrée. Donc la plupart du temps, c'est entre 0,1 et 0,2 microvolts pour la sensibilité des récepteurs classiques, ceux que l'on a dans nos stations radioamateurs les plus classiques. Voilà, donc le S0, c'est le minimum, hein, moins 127 dBm ou 0,1 ou 0,16 microvolts selon le matériel et le prix que l'on y met. Et donc, afin d'augmenter cette sensibilité, eh bien, il faut faire en sorte que tous les étages de notre récepteur soient les plus linéaires possibles. Parce qu'en fait, dès qu'on va avoir un manque de linéarité, ça va faire comme si le récepteur générait du bruit qui va donc masquer le petit bruit que vous voulez, enfin tout moins le petit signal que vous voulez recevoir. Plus vous allez avoir de bruit, plus votre petit signal il va être noyé dans le bruit et donc vous n'allez pas pouvoir l'extraire. Et donc il est important d'avoir dans toute votre chaîne d'amplification le moins de bruit possible, donc le moins de distorsion, puisque, encore une fois, le bruit, c'est quoi ? C'est le fait qu'un amplificateur ne soit pas linéaire. Alors, amplificateur pas linéaire, ou un oscillateur aussi, qui ne génère pas exactement une sinusoïde, mais fait un truc un peu bâtard, et donc ramène du bruit. Et plus vous ramenez de bruit comme ça sur votre chaîne de réception, moins vous allez pouvoir sortir des signaux qui sont faibles. Voilà. Et ce qui est important, c'est que le bruit généré par un étage, donc le manque de linéarité de cet étage, se traduit aussi par des décibels milliwatts. Donc ce peut se concrétiser par des décibels milliwatts qui viennent finalement diminuer votre sensibilité, c'est-à-dire que de vos 127 dBm, si vous rajoutez 5 dB de bruit, bah, vous n'avez plus que 122 dBm. Vous ne pouvez plus recevoir que 122 dBm comme étant le signal le plus petit. Et à chaque fois que vous rajoutez un élément non linéaire, vous rajoutez du bruit, et donc, du coup, votre signal est de plus en plus noyé dans le bruit. Alors effectivement, comme je m'y attendais, sur le chat, on me dit que le 50 microvolts à l'entrée du récepteur, c'est pas toujours vrai. Oui, c'est pas toujours vrai. Et après, l'étalonnage du S-mètre, c'est pas précisément 6 dB par point S-mètre. Mais voilà, normalement, c'était quand ça avait été établi au départ, de manière professionnelle, ça permettait comme ça d'avoir une idée de la puissance du signal. Mais maintenant, c'est un peu tout et n'importe quoi, donc je ne suis pas certain que c'est pas parce que vous avez une station qui arrive avec un signal tonitruant que pour autant ça respecte cette norme entre guillemets qui avait été établie. Alors c'est quand même 50 microvolts, c'est un joli signal quand même. C'est pas quelque chose. Ça commence à être un signal quand même assez puissant. Donc quand on vous dit je vous reçois S9, c'est que c'est déjà un bon signal. Et si c'est S9 plus 20, ça fait 5 microvolts. 5 microvolts sur l'antenne, ça commence un peu à faire du bruit. On pourrait presque le mesurer avec un multimètre. Quoi. Donc c'est quand même assez. C'est quand même assez intéressant. 500 microvolts, ça commence à faire un peu de bruit. Donc ça, c'est la sensibilité. Sélectivité, on en a parlé auparavant, c'est la largeur de du filtre de ma FI. On en arrive aux émetteurs. L'émetteur, évidemment, je vais rester sur le slide, ça sera plus simple, mais ça va fonctionner à l'envers d'un récepteur, c'est-à-dire que vous allez avoir le microphone. Alors oui, effectivement, après, le commentaire, c'est ce qui compte le plus, c'est le rapport signal sur bruit. Oui, mais ce rapport signal sur bruit, c'est encore très théorique. C'est-à-dire que, en fait, il faut, pour qu'une communication soit jugée bonne, il faut que le bruit soit supérieur à un certain niveau. Enfin, que le signal, oui, soit supérieur à un certain niveau de bruit. Et donc, c'est ce fameux rapport signal sur bruit. Ça, c'est essentiellement plutôt en FM qu'on va retrouver cette problématique-là, où il faut avoir un certain niveau de signal pour que le démodulateur il puisse fonctionner. Ça, c'est vrai en FM. En AM, en fait, on va toujours pouvoir sortir plus ou moins bien le signal. Alors, évidemment, c'est mieux si on a un signal sur bruit important, mais le démodulateur va toujours fonctionner, ce qui n'existe pas en FM. En FM, si on n'a pas un rapport signal sur bruit suffisamment important, le démodulateur ne va pas savoir démoduler. Donc voilà pourquoi on a ce rapport signal sur bruit qui est important, mais c'est surtout en FM. FM ou modulation de phase, c'est pareil. Mon émetteur lui va se lire du microphone vers l'antenne Donc, on va avoir le même système finalement que pour un récepteur, c'est-à-dire qu'on va avoir un amplificateur audio, avec pourquoi pas un compresseur, on verra la semaine prochaine comment on retrouve ça, et à quoi ça sert surtout. Ensuite, ici, on a un modulateur. Alors, dans le cas du démodulateur, c'était transformer de la HF en BF. Dans le cas du modulateur, bah, évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un signal BF va devenir un signal HF modulé. Une fois qu'il est modulé, on va pouvoir, si on veut, le mélanger avec un oscillateur local. L'idée ici, c'est que mon oscillateur local, ici, il est commun avec mon récepteur. Comme ça, quand je change ma fréquence de réception, je change aussi ma fréquence d'émission. C'est quand même assez sympa. Hein, ça évite d'avoir deux oscillateurs à faire tourner en même temps. Et donc après mon mélangeur, là, eh bien, j'ai une chaîne d'amplification de puissance. Ici, j'en ai mis qu'un seul, mais je peux en avoir plusieurs à la suite. Et après ma chaîne d'amplification de puissance, surtout, je mets un filtre anti-harmonique ici, parce que mon amplificateur de puissance, il y a toutes les chances qu'il peut générer des harmoniques parce qu'il n'est pas linéaire. Et donc, pour éviter d'embêter tous mes petits camarades, enfin, pas que mes camarades d'ailleurs, mais tout le monde sur la bande, eh bien, je vais mettre un filtre anti-harmonique pour que, si des fois mon amplificateur n'est pas linéaire, que je limite la casse et que je ne génère pas d'harmoniques. Donc, les harmoniques, ce sont des fréquences multiples de la fréquence d'émission. On ne peut pas générer, on ne peut pas causer de problème sur une fréquence inférieure. On ne peut poser de problème que sur des fréquences supérieures parce que ce sont ces fréquences-là qui sont générées lorsque mon amplificateur n'est pas linéaire. Et donc, pour éviter ça, eh bien, je mets un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure égale à la fréquence de mon de la fréquence d'émission là, si bien que toutes les fréquences au-delà de la fréquence d'émission seront coupées, et donc si des fois mon amplificateur n'est pas aussi propre que prévu, et ben comme ça évite à trop polluer les ondes, tout au moins les fréquences supérieures à ma fréquence d'émission. Et après, j'ai mon antenne. Donc, ce qui est en commun, en règle générale, avec le récepteur, c'est évidemment l'antenne. Vous allez utiliser la même antenne à l'émission et à la réception. Donc, il va vous falloir ici un relais qui va vous commuter soit côté réception, soit du côté émission, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, notre principe, on est en alternat, c'est-à-dire que soit on est en émission, soit on est en réception, on ne peut pas être les deux à la fois, puisqu'on n'a qu'une seule antenne en règle générale. Et en commun, on a aussi, en règle générale, l'oscillateur local, puisque quand on bouge la fréquence d'émission de l'émetteur, on va bouger de la même manière la fréquence du récepteur. Voilà. Donc ce sont les deux éléments qu'on a en règle générale en commun dans les émetteurs-récepteurs. Alors il y a quelques questions qui ont été posées quand même. Alors je me pose encore une fois la question, comme les questions de technique et de réglementation sont posées en même temps, il se peut très bien que des candidats aient confondu l'épreuve, et qu'ils m'ont remonté que la question a été posée dans l'épreuve de technique, alors qu'en fait elle a été posée en épreuve de réglementation. Sauf que j'ai quand même des témoignages de F0 qui sont devenus F4, et qui donc n'ont eu qu'à passer l'épreuve de technique, et quelques-uns m'ont remonté des questions sur la compatibilité électromagnétique. Voilà. Relativement simple, mais voilà, il y en a deux, trois qui se sont pointés quand même. Pas beaucoup, certains, mais il y en a quand même. Donc je rappelle ce que l'on avait vu dans la partie réglementation. La compatibilité électromagnétique, donc c'est la CEM, et c'est la faculté d'un émetteur de ne pas perturber son environnement, et donc de générer des problèmes d'émission vis-à-vis d'un récepteur, et dans le cas du récepteur, c'est de ne pas être perturbé par un émetteur ou par son environnement. Alors évidemment, encore une fois, dans les limites du raisonnable, mais ça, c'est des règles de savoir vivre ensemble, quoi. Et donc, un appareil, un matériel... Alors, un matériel, c'est un ensemble d'appareils. Exemple, une alimentation et un émetteur, sans alimentation, ce sont deux appareils. Mais ces deux appareils, ensemble, forment un matériel d'émission. D'accord ? Et donc, c'est cet ensemble qu'il faut regarder, et pas juste la partie émetteur ou juste la partie alimentation. Alors ça, c'est les plus simples, mais vous pouvez multiplier comme ça si vous avez une alimentation, un émetteur, un amplificateur linéaire. Bien évidemment, c'est cet ensemble-là qu'il faudra prendre en compte pour conceptualiser cette compatibilité électromagnétique. Et donc, ce matériel, il a un certain niveau d'immunité. Donc voilà, il peut fonctionner dans des règles qui ont été définies notamment par le RR. Et puis aussi par d'autres normes, des normes européennes notamment. Voilà, et donc, normalement, ces normes sont faites pour que l'ensemble du matériel puisse cohabiter à peu près normalement. Et s'il y a des problèmes justement de compatibilité électromagnétique, donc l'un gêne l'autre, eh bien, il faut prendre des mesures de durcissement, donc soit du côté émission ou du côté réception, parce que on respecte pas les normes étant faites justement pour que les deux puissent cohabiter naturellement. Les perturbations peuvent venir de deux sources, que ce soit en émission ou en réception. Donc en émission ou en réception, ça s'appelle la susceptibilité, puisque c'est le niveau d'immunité qu'il faut qu'il soit... la susceptibilité, c'est le fait qu'on ait atteint ce niveau d'immunité. Donc on a le niveau d'immunité, et quand on l'atteint, on a atteint le seuil de susceptibilité. Donc il faut remonter le niveau d'immunité pour remonter le seuil de susceptibilité. Et donc, lorsque la perturbation, elle est conduite, donc ça veut dire que ça passe par des conducteurs, donc c'est du courant électrique qui passe, tout simplement, et quand c'est rayonné, eh bien, dans ce cas-là, c'est un champ électromagnétique. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué, parce que on ne suit plus juste les conducteurs, on regarde tout ce qui se passe autour des conducteurs qui ont généré des champs électromagnétiques, et qui donc peuvent, et les champs électromagnétiques, mais ils sont un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais on a un peu du mal à les canaliser, beaucoup plus que des courants électriques qui passent par des conducteurs, donc le conducteur, on peut le suivre. On peut le suivre, alors que perturbation rayonnée, c'est un peu plus compliqué. On a aussi... Alors, j'ai jamais vu de question sur l'intermodulation, mais voilà, il en existe, il pourrait en exister. Alors, j'ai rajouté ici une notion qu'on n'a pas abordée quand on avait vu ça dans la partie réglementation, c'est le point d'interception d'ordre du troisième ordre. Et ça, c'est une notion qui est importante dans les récepteurs. C'est une norme. Quand vous regardez les caractéristiques d'un récepteur, vous avez la sensibilité, hein, donc qui est donnée en dBm, comme on a vu tout à l'heure, ou en microvolt sur 50 ohms. Et vous avez un deuxième point qu'il faut regarder, c'est le point d'interception du troisième ordre, ou IP3. Alors c'est quoi ce truc-là ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une intermodulation ? C'est le fait que quand on a deux fréquences qui sont présentes et relativement plus proches l'une de l'autre, et que l'on a des produits... Alors quand c'est des produits du second ordre, c'est pas trop grave, parce qu'en fait, ce que va faire le récepteur, qui, s'il n'est pas linéaire, en cas de problème sur un étage qui n'est pas linéaire, vous allez retrouver du coup un mélange qui peut être égal à A plus B ou A moins B. A plus B et A moins B, quand ce sont des fréquences qui sont proches l'une de l'autre, elles vont se retrouver du coup très éloignées. Parce que A plus B, elle va être du coup deux fois la fréquence, en imaginant que A et B soient très proches l'une de l'autre. Et si c'est A moins B, bah ça va se retrouver plutôt vers des fréquences très basses. En revanche, si vous avez des produits du troisième ordre, là c'est beaucoup beaucoup plus gênant. Pourquoi ? C'est que si on a deux fréquences qui sont proches l'une de l'autre, le produit du troisième ordre, ça va être 2 fois B moins A ou 2 fois A moins B, qui donc va être très proche l'un de l'autre. Et si bien que cette fréquence un peu bizarre qui est générée par le récepteur va être sur une fréquence qui n'est finalement où il n'y a personne, puisque c'est le récepteur qui va générer cette fréquence. Et donc ce produit du troisième ordre là doit être le plus réduit possible. Et s'il est le plus réduit possible, ça veut dire que au niveau de la réception, on doit l'entendre le moins possible. Et en fait, on va l'entendre lorsqu'on va avoir des signaux très 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 importants. Et plus le niveau des signaux est important, plus ces produits du troisième ordre vont être important. Et donc c'est cette courbe-là qui explique. Donc ça, c'est la courbe, la droite d'amplification du signal normal. Et ici, ça c'est l'amplification du produit du troisième ordre, et qui est beaucoup plus. C'est une droite qui est beaucoup plus verticale. Et qui donc, si elle commence très éloignée, eh ben, du coup, elle va se retrouver ici beaucoup plus loin. Et donc, ce point d'interception du troisième ordre, c'est un point très théorique, où ici, on va croiser les droites d'amplification et d'interception du troisième ordre. Et donc ici, on va avoir, et ça va se calculer aussi ici en dBm. Et donc vos récepteurs, ça va être fonction de de ce point d'interception ici, et d'autre part de l'écart que vous avez entre A et B. Et donc là, typiquement, on doit avoir, pour des récepteurs classiques, on va avoir un point d'interception ici aux alentours de 100 dBm, donc c'est quand même une valeur assez importante, avec un écart entre les deux fréquences A et B de 20 kHz. Évidemment, plus ici on a un écart qui est faible, plus ici le point d'interception va être bas. Et ça, c'est vraiment pour exprimer finalement qu'est-ce que va poser problème un signal très fort qui va être très proche de votre fréquence de réception. est-ce que ça va faire en sorte que votre récepteur va être saturé et du coup que vous n'allez pas pouvoir recevoir votre correspondant parce que le signal adjacent est trop fort et donc va complètement saturer vos amplificateurs et qui vont donc générer des produits du troisième ordre. Et évidemment, plus le signal, l'écart entre les deux fréquences là, donc entre la fréquence de réception et votre signal parasite, plus cet écart est faible, plus ici le point d'interception va être bas. Parce qu'évidemment, si vous avez quelqu'un quasiment sur la fréquence que vous voulez recevoir qui arrive très fort, à la fréquence que vous voulez recevoir, ben vous ne l'aurez jamais, puisqu'elle va être complètement noyée dans le bruit de la fréquence qui est adjacente et qui vous pourrit la vie. Transmodulation, pas de question non plus, mais qu'on avait vu déjà dans l'épreuve de réglementation. La transmodulation, c'est typiquement... Alors, autant l'intermodulation, c'est une relation entre deux fréquences, la transmodulation, il n'y a aucun rapport entre les deux fréquences. Il y a juste une fréquence très très forte, un signal très puissant, sur une bande qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez recevoir, mais qui est si forte que finalement, elle va complètement saturer tous vos circuits d'entrée. Et comme elle sature les circuits d'entrée, eh ben elle va foutre le bordel partout. Et notamment, elle va faire en sorte que tous vos filtres d'entrée deviennent des mélangeurs. Et donc là, ça va être la cata la plus complète. Et donc votre transmodulation, c'est un signal puissant et surtout modulé en amplitude. Parce que comme il est modulé en amplitude, de ce fait, il va se mélanger avec le signal que vous voulez recevoir. Donc, la transmodulation, c'est un problème de modulation d'amplitude. Voilà, et puis, encore une fois, dans le cas de l'intermodulation, il y a une relation mathématique entre la fréquence parasite et la fréquence désirée, ce qui n'existe pas dans la transmodulation. Et la surmodulation, c'est encore autre chose, c'est un problème d'émission en modulation d'amplitude, dont on parlera la semaine prochaine. Le bruit, maintenant, pas de question sur le bruit, mais bon, voilà, je préférerais vous en parler rapidement. Donc le bruit, ça provient d'une part de la chaleur, parce qu'il y a du bruit entre parenthèses, entre guillemets, naturel. Et donc ce bruit, dans ce cas-là, il provient de la chaleur. Donc la chaleur, c'est quoi? C'est de l'agitation d'électrons. Plus la matière est chaude, plus les électrons s'agitent. Ça, c'est un truc, ça marche bien, c'est mathématique. Et donc, ce bruit arrive soit par la chaleur, soit par des étages qui ne sont pas linéaires. Et finalement, ça revient au même, puisque tout ça se mesure, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se mesure en dBm. Donc la chaleur se mesure aussi en dBm. Et pour mesurer le bruit amené par la chaleur, eh bien, on a une superbe formule avec ici une formule où on a la constante de Boltzmann. C'est le fameux K, donc 1,38 10 puissance moins 23. Et donc la puissance du bruit thermique, c'est cette fameuse constante de Boltzmann, multipliée par la température en Kelvin. Alors, température en Kelvin, c'est quoi? Le Kelvin, c'est donc des degrés Celsius, mais ramené au zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés. Donc, quand on est en degrés Kelvin, 20 degrés, ça correspond donc à 293 degrés Kelvin. Hein, je rajoute 20 degrés, puisque mon 0 Celsius, le 0 correspond à la glaciation. Alors que dans le système Kelvin, le 0, c'est le 0 absolu, donc on ne peut pas descendre plus bas en température. Et donc constante de Boltzmann multipliée par la température en Kelvin et multipliée par la bande passante en Hertz, puisque plus vous avez une bande passante importante, plus vous collectez de bruit. Voilà, c'est bête. Et donc, le bruit thermique mesuré sur une antenne à la température ambiante de 20 degrés pour une bande passante de 2500 Hz, typiquement de la téléphonie en BLE, on arrive donc à un niveau de bruit de moins 140 dBm. Alors, on applique la constante de Boltzmann et on y va. Et ça fait moins 140 dBm et ça fait seulement 13 dB en dessous de mon S0. Donc, finalement, en supposant que on n'a que le bruit thermique, parce qu'on va voir, il y a d'autres choses qui vont se rajouter, sans parler du bruit rajouté par nos propres éléments, nos propres oscillateurs, nos propres amplificateurs, etc., nos propres mélangeurs, qui peuvent ramener du bruit, parce qu'ils ne sont pas linéaires, mais sans parler de ça, eh bien, le bruit thermique en lui-même ramène déjà moins 140 dBm de bruit à 20 degrés et pour 2500 Hz. Alors évidemment, si vous êtes en morse, vous allez gagner un petit peu, mais si vous êtes en télévision à 1 méga de bande passante, eh bien là, vous allez en perdre beaucoup. Et donc, à ce bruit thermique va se rajouter la pollution radioélectrique, tiens. Et ça, il y en a pas mal, hein. Et il y en a de plus en plus, notamment en région parisienne. On va rajouter le bruit atmosphérique, tous les crachotements, tous les orages, etc. Tout ça va rajouter du bruit. Le bruit galactique, notamment le Soleil. Le Soleil génère du bruit. Et donc, ce bruit généré par le Soleil, ça va se rajouter au bruit thermique. Et puis enfin, les pertes. Les pertes dans les lignes de transmission, ça conduit à rajouter du bruit. Alors ça ne rajoute pas du bruit, ça réduit la valeur de votre signal, de votre signal reçu. Mais ça revient finalement à rajouter du bruit sur ce signal reçu. C'est un peu tordu comme truc, mais ça revient, c'est finalement le même effet que le bruit. Et d'ailleurs, ça se calcule aussi en dBm. Et si bien que quand on fait le bilan de tous ces bruits, sans parler encore une fois des bruits propres au récepteur, eh bien on va arriver à un niveau de bruit supérieur au S0, donc supérieur à la sensibilité minimum de votre récepteur. Et donc en plus vont se rajouter aussi les étages qui ne sont pas linéaires et qui donc génèrent du bruit. Et pour calculer le bruit généré par le récepteur, on va prendre chacun des étages et on va rajouter le bruit généré par chacun des étages par cette formule-là, et on s'aperçoit que, et donc vous avez dans la formule le bruit, mais aussi le facteur d'amplification de votre étage. Et donc F c'est le bruit total, F1 c'est le facteur de bruit apporté par l'étage 1. Et puis après, quand on a l'étage 2 ici, donc on a le facteur de bruit apporté par l'étage 2, mais divisé par le gain apportée par l'étage 1 qui est ici, etc., etc. Et donc tout ça fait que cet ensemble, donc en fait, il faut faire en sorte que le premier étage, eh bien, soit le plus linéaire possible pour qu'il apporte le moins de bruit possible, puisque une fois qu'on a passé cette étape-là, les bruits générés par tous ces étages sont finalement masqués par le fait qu'il y a eu une amplification. Alors évidemment, il ne faut pas que l'amplification elle génère aussi du bruit, parce que enfin plus de bruit que l'amplification, sinon c'est un petit peu c'est le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, donc il faut faire en sorte que chaque étage apporte plus d'amplification que n'apporte de bruit. Et les deux se calculent en décibels, sauf qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc ce qui est très important, c'est le premier étage qu'il soit le plus linéaire possible. Ça, je le répète surtout quand on est en VHF ou en UHF, et c'est pour ça que on va positionner un préampli de réception en tête de mât pour être après le masquage du coaxial qui lui rapporte de la perte, puisque et donc par conséquence du bruit, puisque quand on est en VHF ou UHF, on a des pertes plus importantes dans le coaxial qu'en décamétrique. Donc on va plutôt utiliser des préamplis en tête de mât, proche des antennes, pour amplifier, faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible, pour masquer par la suite la perte qu'il y a eu dans le coaxial par l'affaiblissement linéique. Voilà, on arrive à la fin de du cours. Maintenant, on passe aux questions posées à l'examen. Alors, encore une fois, dans la base de données des questions que j'ai faites, il y en a quand même beaucoup sur ce chapitre-là, avec énormément de schémas, des schémas plus ou moins compliqués qu'on va voir là, des schémas qui vont être plus ou moins complets. Donc voilà, typiquement le premier là, alors déjà, il y a des questions de littérature qui sont souvent longues et souvent, à mon sens, mal posées ou tordues, quoi. Celle-là, elle est relativement simple, la première, mais il y en a d'autres qui sont des fois où on se. Alors soit c'est les candidats qui reportent mal dans leur compte-rendu ou qui ont des. Qui ne se souviennent plus et qui se font des nœuds dans la tête, voilà. Ou ce que je crains, c'est que des fois ce soit mal aussi écrit par les gens de l'ANFR, qui sont des bons techniciens, mais peut-être pas des très bons, peut-être pas très bons en français et en expression écrite. Voilà. Différence entre un récepteur hétérodyne et un récepteur direct. Donc, qu'est-ce que c'est que cette différence ? Donc, un récepteur hétérodyne possède une meilleure sélectivité. Dans un récepteur hétérodyne, la démodulation se fait plus simplement. Un récepteur hétérodyne n'a pas de problème de fréquence image. Un récepteur hétérodyne se caractérise par la simplicité du montage. Donc, hétérodyne égale problème de fréquence image. Donc, déjà, celle-là, on ne la prend pas. On ne peut pas dire que l'hétérodyne ce soit. La simplicité du montage, c'est un peu plus complexe que d'autres. Donc on ne va pas la sélectionner du premier coup. Dans un récepteur hétérodyne, la démodulation se fait plus simplement. La démodulation, elle se fait, ça n'a rien à voir que ce soit qu'on soit en hétérodyne ou en réception sans conversion, ça ne change rien. La démodulation se fait de manière identique. Donc on ne peut pas dire que ce soit plus simple. Donc la solution, la meilleure réponse me semble la première, d'autant plus qu'on a parlé que le récepteur hétérodyne, son avantage, c'est qu'il avait une meilleure sélectivité, une meilleure sensibilité, les deux à la fois. Ensuite, on a des questions autour de synoptique. Donc ici, alors on n'a pas encore parlé du contrôle automatique de gain. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais voilà, et donc là, le premier étage juste après l'antenne, ici, c'est un amplificateur RF ou un filtre RF, comme on veut. Et donc ici, dans le deuxième cas, ici, c'est un filtre RF. Dans ce deuxième cas, d'ailleurs, au passage, vous voyez, il n'y a pas représenté, notamment ici, l'ampli FI. Il n'est pas représenté. Et il n'y a pas non plus, l'oscillateur non plus, on ne le voit pas, il n'est pas représenté. Donc c'est quand même une représentation très bizarre d'un récepteur, sachant qu'ici il n'est pas complet, il y a plein d'éléments manquants. Donc ici, mon étage ampli RF et ici un filtre, puisque les autres noms d'étages ici ne correspondent pas à ce que je veux. Et puis cette notion ici, premier ampli, n'est pas suffisamment précise. Premier ampli, on ne sait pas de quoi. Donc il vaut mieux... c'est plutôt ampli RF ici qui est préférable. Voilà. Donc encore une fois, ce sont des noms différents, bien que ce soit le même étage. Hein, selon que l'on veut montrer quelque chose ou d'autre. Voilà, j'ai parlé des deux étages, soit c'est filtre, soit c'est ampli RF. Mais quelquefois, l'ampli RF se limite justement à un filtre. Encore un synoptique encore plus partiel. Et donc là, ici, j'ai un étage RF, un étage oscillateur local. Entre les deux, j'ai quoi ici? Ça ne peut être que le mélangeur. Le mélangeur avec ici une chaîne de fréquences intermédiaires où il y a trois petits pins, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Voilà, on ne sait pas trop. Donc ici, c'est mon mélangeur qui est ici. La fréquence image est... La fréquence de porteuse de la station émettant sur une bande adjacente à celle de la station captée. J'ai un peu de mal. Donc ça, ce serait une fréquence qui serait à côté de la fréquence que l'on veut recevoir. Décalée du double de la fréquence intermédiaire par rapport à la fréquence de réception. Ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Créée dans le récepteur et ne contient aucune information modulée. Et si la fréquence image contient de l'information modulée, puisque c'est un correspondant potentiel sur une autre fréquence, sur une autre bande que votre récepteur arrive à recevoir. Totalement bloqué par l'amplificateur RF lorsque celui-ci et l'amplificateur FI sont réglés par une même commande. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est que ce système-là, mais ça marche pas. En tout cas, ça ne peut être que la deuxième réponse. À quoi sert le filtre passe-bande dans un émetteur? Limiter la fréquence image, augmenter la sélectivité, faciliter la modulation, éliminer les harmoniques. Bien évidemment, c'est éliminer les harmoniques. Alors plus précisément, on devrait parler d'un filtre passe-bas plutôt qu'un filtre passe-bande. Voilà. Mais voilà, passe-bande, ça fonctionne aussi. En tout cas, la fréquence image, ce n'est pas un problème d'émission, c'est un problème de réception. Et même chose, sélectivité, c'est un problème de réception. Et faciliter la modulation, je ne vois pas trop en quoi ça facilite la modulation d'avoir un filtre passe-bande. Voilà les réponses. Une forte distorsion du signal peut être due à l'amplificateur RF, au CAG, donc au contrôle automatique de gain qu'on verra la semaine prochaine, à l'amplificateur audiofréquence, à l'amplificateur FI. Le principal problème des distorsions, et des fortes distorsions, c'est justement le signal lorsqu'il est à l'entrée, le signal à l'entrée, donc le premier ampli RF, ou l'ampli RF qui est le premier amplificateur à traiter le signal issu de l'antenne. Et si ce signal est très fort, eh bien il peut l'amplificateur pourrait ne pas être linéaire. La fréquence image vaut 3 fois la FI, est générée par le récepteur, vaut 2 fois la FI, est un harmonique pair de la fréquence à recevoir. Donc la fréquence image, alors c'est pas 2 fois ou 3 fois la FI, la fréquence image, c'est l'écart entre la fréquence à recevoir et la fréquence image qui peut être égale à 2 fois la FI. Peut. Mais c'est l'écart. Et non pas la fréquence image en elle-même. Donc c'est ni le 1, ni la première, ni la troisième, ni la quatrième, c'est pas un harmonique pair de la fréquence à recevoir. Hein. Ça se calcule. Et ça se calcule soit en fond. Il y a des calculs qui se font avec la deux fois la fréquence de l'oscillation ou deux fois la fréquence intermédiaire selon qu'on est en infradine ou en supradine. Alors, il y a combien de classes qui existent ? De classes de quoi ? De classe d'émission, de classe de radioamateur, de classe de quoi? Donc voilà, j'avais mis mon petit commentaire, là on en a déjà parlé. Autre type ici, là c'est plutôt côté émission. Donc comment ici s'appelle cet étage-là? Donc ça c'est l'amplificateur. Alors ça peut être quoi? C'est le modulateur là. Ici j'ai un ampli audio, mon amplificateur HF qui est ici, donc entre les deux j'ai un modulateur, donc mon modulateur il est là. Vous remarquez qu'ici j'ai pas le filtre anti-harmonique, on va supposer qu'il va être intégré ici à l'amplificateur HF. Quel est l'étage marqué point d'interrogation? Et donc ici, là, c'est bien... alors, c'est après le filtre. Et merde. Alors, après le filtre, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Un amplificateur RF? Ah oui, ici, parce que ici, c'est le modulateur équilibré, ici, un filtre. Donc, modulateur équilibré, ça, c'est pour la double bande latérale. Et le filtre, ici, c'est le filtre. Le filtre à quartz qui va permettre de séparer la bande latérale inférieure et de la bande latérale supérieure. Et donc ici, ça c'est mon ampli RF qui me permet d'amplifier ma bande latérale supérieure ou inférieure selon que je suis en BLI ou en BLS. Ici un synoptique un peu tordu ici pour faire un peu de qui n'est pas aussi linéaire que ça, et donc ici le dernier amplificateur c'est mon filtre passe-bas. Puisque ici, ça c'est mon micro, AF, modulation, RF, filtre passe-bas, antenne. Quelle est l'origine de l'intermodulation? Donc distorsion d'amplitude, perturbation secteur, distorsion de fréquence ou fréquence image. Et donc l'intermodulation, ça provient de distorsion d'amplitude, et non pas de distorsion de fréquence. Ça, pour revenir au paragraphe 7.1. Première partie du chapitre 7. Voici les réponses. Et on en arrive au... Alors, pas de manip, enfin tout au moins une manip un peu particulière qui sera continuée la semaine prochaine. Je vais vous présenter un synoptique, tant qu'à faire, puisque c'est... Mais un vrai synoptique cette fois-ci. Un synoptique d'un poste qui existe. Je vous ai mis ici le lien si vous voulez aller voir enfin, la réalisation de ce transceiver. Alors le Forti, comme son nom l'indique, c'est pour la bande des 40 mètres, donc pour le 7 mégas, en BLU. Et donc c'est du matériel qui a fait ses preuves, qui doit avoir maintenant une vingtaine d'années, qui continue d'être d'évoluer, qui a été créé par Luc, F6BQU, et qui a mis tout ce qu'il a construit sur son site internet, dont ce fameux Forti, que je vais vous montrer plus en détail. Alors, hop, plus. Alors, donc, ici, vous avez l'antenne. Et à partir de cette antenne, vous avez un relais qui permet, alors en position repos, ce relais, il est évidemment côté réception, et c'est quand on passe en émission qu'on va coller les relais, et que du coup, le relais, il va passer, il va commuter ici en émission, et donc il va faire en sorte que toute la ligne d'émission qui est là va partir dans l'antenne. D'accord ? Ici, donc, on va commencer par s'intéresser à la ligne de réception. Donc, ici, vous avez toute la ligne de réception en haut. Et au milieu, là, vous allez avoir la partie commune, qui est commune à l'émission et à la réception. Ce qui est commun à l'émission et à la réception, c'est le synthétiseur qui est ici. Le synthétiseur, c'est donc l'oscillateur local, en fait. Donc, qui est dans ce cas-là, est un synthétiseur, donc c'est numérique. Mais peu importe. Ça va fonctionner de la même manière. Et donc, ce synthétiseur, ici, évidemment, on va avoir un petit affichage qui va vous permettre, notamment, d'afficher la fréquence sur laquelle vous êtes. C'est quand même très sympathique. Cet ensemble va fonctionner de 7 à 7,3 mégas. Donc vous remarquez que ça va être un peu au-delà de la bande en Europe, mais le 7,3 est autorisé en Amérique. Donc voilà, en région 2. Voilà, donc quand on regarde côté récepteur, eh bien je commence ici par un filtre passe-bas 7 mégas, avec la possibilité ici d'enclencher ou pas un atténuateur. Ok. Ensuite, j'arrive. Alors vous remarquez que ce n'est qu'un filtre, je n'ai pas d'amplificateur. Le premier amplificateur, il va être en fait ici dans un mélangeur particulier, qui est un mélangeur à gain, c'est-à-dire que sur l'entrée ici du mélangeur, avant qu'il y ait vraiment le mélange, on a ici un amplificateur, et après le mélangeur, il y a un deuxième amplificateur, et ça c'est à l'intérieur, c'est un circuit intégré, hein, IC c'est Integrated Circuit, donc c'est un circuit intégré, le circuit intégré numéro 1, et qui a donc cette particularité d'avoir en interne, deux amplificateurs. Pourquoi ? C'est que ce mélangeur, c'est un mélangeur en anneaux, et les mélangeurs en anneaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils apportent beaucoup, beaucoup de pertes. Et donc, pour compenser les pertes, eh bien, le constructeur a prévu tout de suite de rajouter à l'intérieur des deux chaînes d'amplification. Donc, alors, il n'en a pas mis ici sur l'entrée oscillateur parce qu'on va se débrouiller d'envoyer un signal suffisant ici. Par contre, arrivé d'ici, comme je n'ai ici aucune amplification, je vais avoir un signal très faible. Et donc, je vais avoir ici un mélangeur à gain. Voilà, c'est mon premier mélangeur et mon premier amplificateur. Ici, ce n'est qu'un filtre de bande. Mon synthétiseur, ici, va m'envoyer une fréquence égale, selon ce que je veux recevoir, soit de 2,085 à 2,385. Pourquoi ? C'est que ici, après mon mélangeur à gain, ici j'ai un filtre à quartz qui va être un filtre extrêmement, extrêmement étroit. C'est-à-dire 2500 Hz maximum pour faire pour justement recevoir la BLU. Et là, la fréquence de ce filtre à quartz, c'est précisément 4,9152. Et quand on fait la soustraction du 7 mégas avec ici les deux fréquences, enfin, les deux extrêmes de fréquence ici de mon oscillateur, j'arrive ici sur la fenêtre de tir de mon filtre à quartz. Et donc, encore une fois, le filtre à quartz, c'est quelque chose qui est très, dont les flancs sont très raides et qui va être très étroit, c'est 2500 Hz, pas plus. Ensuite, j'ai un amplificateur FI, donc avec un transistor, un Q, ça veut dire transistor, dans tous les, enfin, dans les schémas, souvent Q, c'est un transistor. Et ensuite, j'arrive avec un deuxième mélangeur à gain. Pourquoi ? C'est qu'ici, j'ai mon BFO. BFO, on verra ce que c'est quand on parlera la semaine prochaine de la BLU. Donc, c'est ce qui va me permettre de reconstituer ma porteuse. La porteuse qui n'existe plus puisque je suis en BLU et qui va me permettre de restituer ma BF. Voilà, je pense que alors je vais peut-être faire un petit zoom encore, voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà, sur cette sur ce mélangeur à gain, en plus ici j'ai mon contrôle automatique de gain qui vient ici, qui provient ici de, alors pardon, qui a été pris ici à la sortie du mélangeur et qui repart ici, soit sur mon mélangeur à gain. Donc ici, en fait, ce que je vais faire varier, c'est le gain de mon mélangeur. On verra la semaine prochaine ce que c'est qu'une CAG pour toutes les modulations d'amplitude. Un contrôle automatique de gain, c'est justement pour faire en sorte que les signaux, quand ils sont forts, soient moins amplifiés que les signaux faibles, pour que la chaîne d'amplification fonctionne à peu près de manière similaire, que le signal soit fort ou que le signal soit faible. Et donc je réintègre une partie de contre-réaction finalement ici par mon contrôle automatique de gain, que je réinjecte ici dans mon mélangeur à gain sur le deuxième circuit intégré et que j'avais intégré ici sur le premier. Donc là, mon circuit intégré, en fait c'est les deux mêmes, IC1 et IC2, ce sont les deux mêmes circuits intégrés. On va les voir aussi dans la partie émission, on va utiliser quatre fois le même circuit. Et donc c'est un circuit où on a donc un mélangeur, un amplificateur ici dont le gain est variable par cette commande de CAG, le mélangeur en anneau et un amplificateur encore en sortie qui lui est dont le gain est fixé dès le départ. Donc tout ça est dans le même circuit intégré. Donc on recommence ici avec ce circuit-là, avec ici un quartz, puisque ici j'ai une fréquence fixe, donc j'ai pas besoin d'un oscillateur, d'un synthétiseur. Ici je vais avoir besoin juste d'un quartz, parce que mon circuit est suffisamment intelligent pour avoir un oscillateur intégré, que je n'ai pas utilisé ici dans dans cette configuration-là, puisque là j'arrive directement de mon synthétiseur, mais que je vais utiliser dans la deuxième configuration, puisque ici j'ai une fréquence fixe, et donc j'ai besoin juste d'un quartz égal ici à la fréquence de mon filtre à quartz, qui va me reconstituer ma porteuse. Voilà. À la sortie, ici, donc après mon filtre, et pousse-toi là, toi. Ici, après mon préamplificateur BF, ici, je mets un filtre actif BF. Filtre actif, c'est un filtre à partir notamment d'un ampli-op. Et donc ici, c'est un filtre passe-bas, encore une fois, dont ici, la largeur est variable. Je la fais varier par une commande qui arrive ici par un microcontrôleur, puisque j'ai quelques petits boutons en façade avant, et ces petits boutons vont me permettre de commander comme ça, un, la fréquence, et deux, ici, l'atténuateur aussi, je ne l'ai pas vu, mais ici vous avez l'atténuateur, et vous avez ici la largeur ici, la coupure ici du filtre BF. Et une fois qu'on a ça, alors on récupère ici en sortie une tension, et c'est cette tension qui va vous permettre de déterminer le S-mètre. C'est pour ça que le S-mètre, quand il est ici, c'est, je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner, puisque vous avez la CAG ici, qui normalement a remis tout au même niveau. Donc idéalement, il faudrait que le S-mètre, pour qu'il fonctionne bien, il soit ici au niveau de la CAG et non pas après la CAG. Mais voilà, c'est juste une remarque. Compte tenu de la simplicité du montage, on ne va peut-être pas trop en demander et pas trop s'attarder à ce que le S9 corresponde à 50 microvolts sous 50 ohms. Là, voilà. Et en tout cas, ici, j'ai mon amplificateur BF et mon haut-parleur. Et quand on regarde côté émission, mon micro, un préampli où il y a un compresseur, donc avec un niveau de compression qui est ajustable, il est ajusté une fois pour toutes. On verra dans le schéma. Donc ça, c'est le compresseur dont on parlera aussi la semaine prochaine quand on verra la modulation. Ici, on a à la suite un modulateur équilibré. Ça, c'est typiquement un modulateur BLU. Donc on anticipe un petit peu, mais je dirais que l'ensemble ici, modulateur équilibré plus filtre à quartz, et ici, donc l'oscillateur local, tout cet ensemble-là, ici, c'est ce que vous allez appeler un modulateur. Le modulateur étant lui-même composé de trois éléments principaux, un oscillateur local, un modulateur équilibré, un filtre à quartz. Ce modulateur équilibré, là, c'est exactement le même type de circuit que ce que l'on avait ici. C'est le même type de circuit qu'on retrouve là. Une fois qu'on a donc notre bande latérale inférieure sur 4915, ou d'ailleurs vous remarquez ici 4952, alors 4,9152 et ici 4915. Donc ici, vous avez 200 kHz, 200 Hz de différence ici entre les deux, qui correspond finalement à l'écart que vous avez entre la porteuse et le début. Donc la porteuse, elle est ici. Et le début du filtre, il est ici sur 4915. Donc il est légèrement ici décalée. Hein, la porteuse qui a été supprimée, elle est là. Et donc ici, ça c'est le filtre à quartz où vous avez la bande latérale du coup supérieure, puisque elle va être inversée parce que ici vous allez mélanger et donc la retourner ici avec le deuxième mélangeur. Donc ici vous êtes en bande latérale supérieure. Et quand vous mélangez ici, vous redevenez en bande latérale inférieure. Hein, vous inversez le spectre, puisque vous additionnez les fréquences. Ce n'est que lorsqu'on les soustrait qu'on n'inverse pas le spectre. Ça, c'est le truc tordu, ça. Enfin, en tout cas, maintenant, une fois que vous... Et donc, vous utilisez ici la même sortie, hein, évidemment, vous avez deux, sur le schéma ici, il y a deux sorties, mais en fait, c'est la même. Hein. C'est la même, et donc ça génère la même fréquence à l'émission qu'à la réception. Deuxième mélangeur à gain. Et puis ici, trois transistors, Q4, Q5, Q6, qui vont vous faire la chaîne d'amplification. Laquelle chaîne d'amplification? Ici, en sortie, vous allez récupérer une tension que vous allez ramener ici sur le bar graphe qui va vous indiquer quand vous êtes en émission, l'indicateur de puissance d'émission, et quand vous êtes en réception, donc à l'intérieur, il doit y avoir une bascule, un relais, qui va indiquer soit la puissance d'émission, soit la puissance du signal reçu. Et ensuite, un filtre passe-bas pour arriver ici directement sur le relais qui vous envoie sur l'antenne. Alors, dans un monde idéal, le S-mètre est de la CAG. Alors, effectivement, dans un monde idéal, le S-mètre est pris sur la CAG, et non pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, le S-mètre est pris sur la CAG, et non pas sur en ampli après la CAG. Et ça, c'est le monde idéal. Donc voilà. Et on verra plus en détail ce schéma avec un schéma électrique qu'on essaiera de comprendre, d'analyser la semaine prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce soir. Je reviens sur mon PDF et je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.